mon avis, il y en a très peu qui nous écoutent. Donc non, ce n'est pas la voix sensuelle du grand Tuco que vous entendez, mais c'est la mienne. Quoi ? Pas de réaction ? Tant pis. C'est lundi 14 septembre, un grand jour pour les Ardennes, pour la France et pour l'humanité. C'est bien sûr l'anniversaire du beau et fort FAP. Bon anniversaire, FAP.
Merci, merci.
C'est l'émotion.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, je suis ému, là. J'ai les larmes au bord des yeux et je sais pas comment. Je suis submergé. Je laisse la parole.
Oui, Tuco. Non. Rien à dire, pas de bon anniversaire, rien.
Bon anniversaire, c'est de la merde. De toute façon, on s'en fout. C'est bon, il a un an de plus, on va pas en faire un plat.
Ouais. Voilà. Maintenant, tu pourras contourner le petit sigle moins de 18. Alors. Ce soir, les mecs, c'est la spéciale Ligue 1. Spéciale Ligue 1, donc comme vous le savez, vous connaissez le principe. On va discutailler, ça fait très paysan ça, autour des multiples sujets que nous offre cette superbe division. Ce soir, donc, on va parler du choc Canal Plus de dimanche prochain, PSG-OL. On a bien sûr un Parisien là, ici pour nous en parler. On va parler de la merde qui règne actuellement à Grenoble. Et on a bien sûr un Grenoblois pour nous en parler. Et ce soir, vers la fin, on finira par la Ligue des Champions et les clubs français qui rentrent en lice dès demain avec Marseille-Milan sur TF1, Juventus-Bordeaux et Lyon-Fiorentina le lendemain. Et pour finir, il va y avoir une grande innovation. On va finir par un petit jeu assez drôle et amusant qui va être orchestré par Tuco. Voilà. Donc, et pour parler de tout ça, ce soir, on a vraiment du lourd. On a du lourd, faut le dire. Donc on a Enzo.
Ouais, alors attention quand tu dis on a du lourd et après mon nom quand même, on sait jamais. Bon, sinon, ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui nous écoutent, c'est le retour, c'est reparti pour une saison.
Ah bah oui, salut Enzo. On a aussi Fapoulet. Ouais. Vous l'avez entendu.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est pareil avec Enzo, c'est le grand retour, donc voilà.
Ça nous a mis tout ça. Il y a Mathieu qui nous vient du sud.
Ouais, je vais pas faire une phrase à rallonge comme mes deux précédents partenaires. Je vais juste dire bonsoir et bonsoir à tous.
On a aussi Hugo qui nous vient de Grenoble.
Eh oui, bonsoir à tous.
Avec sa nouvelle connexion. Tu l'inaugures. Et bien sûr, il y a Tuco, vous l'avez entendu tout à l'heure.
Ouais, salut, voilà, je pèse 75 kilos. Fallait bien trouver un truc à dire, je sais pas.
D'ailleurs, ne racontez pas trop de blagues à l'antenne, car je vous rappelle que Tuco ne peut pas rire. Voilà. Voilà, en tout cas.
Et bien, je vais vous contredire, vous pouvez rigoler, vous pouvez raconter des blagues, je m'en bats les couilles, autant crever, si c'est pour crever, autant crever en direct à l'antenne, je m'en fous.
Oh là, qu'est-ce que c'est héroïque. Oh, c'est beau. Je pense que ça mérite un petit tonnerre d'applaudissements. Bref, donc voilà, ce soir, donc ce soir, c'est la spéciale Ligue 1. Et dimanche, à 21h, vous savez ce qui se passe? Eh ben non, tant pis, il y a PSG et OL, un des premiers tests pour le PSG qui donc n'a pas reçu une des équipes du Grand 4, comme s'amuse à les appeler les journalistes. Pareil pour Lyon. Et donc ça va être un premier test pour les deux équipes. Merci Tuco de me le préciser. Et bien sûr, on a un Parisien, un banlieusard qui vient du 93, pour se fixer, qui vient nous parler de Paris. Donc hier soir, Paris, je rappelle les faits, a perdu 2-0 à Monaco après une expulsion de Cessegnon et donc deux buts encaissés, un par un Chinois qui s'appelle Park et un autre, attention, on va me taxer raciste, et un autre inscrit par Néné. Donc ton ressenti par rapport au match vite fait du match par rapport au match d'hier et comment tu sens ce match qui se présente, donc le premier test contre Lyon avec l'absence de Cessegnon qui a été expulsé et la blessure de Mevlüt Erdin.
Bah déjà faut dire que avant d'aborder le match contre Monaco, on n'était pas tous très rassurés. C'est vrai que il y a eu la blessure d'Erding, il y a aussi Sakho qui s'est fait mal en espoir, donc on a commencé avec une belle charnière centrale toute neuve, Traoré-Bourillon. Et puis bah le délire c'est que au final on n'a pas été capable en quelque sorte de concurrencer Monaco. Moi j'ai vraiment découvert hier une belle équipe de Monaco capable de passer à l'attaque assez rapidement, capable d'être dangereuse quand il fallait. Et nous on n'a pas réussi mine de rien à mettre du rythme. On a eu des pas vraiment des occasions, je dirais plus des situations. Mais on n'a pas été capable de pousser quand il le fallait. Donc rajoute à ça un Waro qui est un peu juste du fait de sa reprise. Tu rajoutes aussi Louis Ndoula qui a fait un sale match, qui a fait une première période on va dire un peu juste et une seconde où il a passé son temps par terre. Ajoute à ça Armand qui se prend un 100 mètres dans la face par un mec qui était encore en train de tisser des chaussures Nike il y a quelques mois, imagine. Donc non, Paris a pas été bon hier. En tout cas, on n'a pas été capable de, comme je t'ai dit, de pousser quand il le fallait. On s'est bien rendu compte au bout d'un moment, passé la 70e, qu'on repartirait pas avec 3 points de Louis II. Quoi.
Oui, d'accord. Et donc, merci pour ce. Mais enfin, bref, je me suis trompé de mot peut-être. Donc,
par rapport au. C'est vrai que je me suis mis à parler un petit peu.
Oui, c'est vrai. Et par rapport à ce match donc PSG Lyon ou par rapport au match hier Monaco PSG, il me semble que tu avais quelque chose à dire. Touko, bah vas-y, lâche-toi, l'antenne est à toi. Vas-y.
Non, c'est pas tellement sur le match hier, mais en fait, en introduction, tu as commencé à dire PSG Lyon, le PSG n'a pas encore rencontré quelqu'un du Big Four en fait. Bah tu parles de quel grand 4 là? Dis les équipes.
Bah le grand 4 dont on entend parler dans les médias, donc à savoir Marseille, Lyon, Bordeaux et Paris.
Ok, d'accord. Non, c'est rien. En fait, t'aurais dû dire grand 3.
Pensais que je parlais de Nice, Nancy et Saint-Étienne.
Toulouse, tout simplement. Ils ont terminé quatrième. Bon, on ne sait pas que.
Bon, ouais, c'est. Ah non, d'accord.
Oui, ils ont terminé quatrième. Faut toujours le rappeler. Non, mais en fait, bon, Paris là pour se projeter un peu dans l'avenir, ils vont rencontrer sans faire un jour aux autres équipes qu'ils ont affrontées avant. Bon, il y a pas vraiment, c'était que des équipes à leur portée, hein, Montpellier, Le Mans, etc. Et là, ils vont rencontrer Lyon à domicile, qui plus est sans Stéphane Cessaignon. Et mais aussi plus qu'un test pour Paris, c'est aussi un test pour Lyon, parce que Lyon, pareil, hein, ils n'ont pas eu d'opposition. Les oppositions, elles étaient gentilles, hein, globalement, avec que ça soit les équipes de championnat ou Anderlecht. Et à part Lorient qui les a bousculés le week-end dernier, je pense que contre Paris, à mon avis, ils ont du souci à se faire, parce que je trouve que Lyon, en fait, on les a trop gonflés. En fait, parce que ils ont pas vraiment d'opposition, la Valenciennes, etc. Tout ça, c'est gentil, quoi. Ça prend pas des 4-0, mais ça va pas gagner non plus, quoi. C'est pas assez dangereux pour inquiéter Lyon. Donc un PSG Lyon au parc, je pense que Paris avec une équipe qui a pas trop changé par rapport à l'année dernière, ils ont déjà épinglé Bordeaux au parc l'année dernière, ils ont déjà épinglé Lyon au parc l'année dernière, donc ouais, bah, moi je dis premier gros test pour Lyon, et cette fois-ci bah ils vont savoir si leur équipe ce qu'elle a dans le ventre ou pas, quoi.
D'accord. Et donc Enzo, je t'ai un peu coupé, mais on n'a pas entendu ton ressenti, enfin ton pressentiment par rapport au match de dimanche prochain.
Bah écoute, pour réagir par rapport à ce que disait Touko, moi franchement je suis pas rassuré quand même. Même sans penser à l'absence de Cessaignon et tout ça, c'est surtout que déjà contre Lille, on a vu malgré le score qu'on n'était pas capable de créer du jeu, que la défense n'était pas rassurante. Quand je vois la force de frappe de Lyon quand même, qui est pour moi le plus gros potentiel offensif de Ligue 1, je me dis que ça peut faire mal, quoi. Mais bon, sur un match tout est possible, j'ai pas envie non plus de partir défaitiste, tu vois, mais bon, c'est vrai que voilà, on voit que ça va être dur de toute façon contre Lyon comme à chaque fois, ça fait un peu cliché de dire ça, mais en tout cas va falloir être fort solide, va falloir être solide collectivement, ouais.
Ouais, moi, dès le départ, concernant Paris et surtout avec l'apport de Camboré, je pensais qu'ils allaient être, enfin, je pense toujours, que peut-être que ce sera pas du football champion toute l'année, mais contre les grosses équipes, ils seront présents avec un état d'esprit irréprochable et que, bon, voilà, ce sera difficile d'aller gagner au Parc et même à l'extérieur face aux grosses équipes, Paris va tenir la dragée haute à tous les favoris, je pense. Mais là, c'est vrai que sans Cessegnon et sans Erding, ça va être vraiment compliqué à mon avis. Même s'il y a toujours moyen de faire quelque chose. Bon après, Kantuko disait qu'il y avait, c'était un test pour Lyon, mais c'est aussi un test pour Paris, parce qu'il faut dire la vérité, censé Big Four, enfin on dit Big Four, c'est-à-dire le PLMB en gros, il n'y a que Marseille qui a rencontré des équipes de niveau assez important, genre du top 5 ou du top 6, avec l'enchaînement Lille, Rennes et Bordeaux. Donc c'est bien que maintenant que les autres équipes rencontrent aussi des équipes un peu plus costauds pour pouvoir étalonner les différentes performances. Donc bon, pour ce match, je sais pas, moi je pense que ça va être compliqué pour Paris, parce que bon, je sais pas pourquoi tu critiques un peu Lyon. Bon, moi je suis pas un fanat de Lyon, mais il faut dire quand même qu'ils ont fait un beau début de championnat, ils ont une bonne équipe complémentaire, deux bons attaquants, enfin bon. Donc moi je pense que ça va être compliqué pour Paris, en tout cas j'ai hâte de voir ce match moi.
Alors, en fait, moi, pour reprendre tout ce que vous avez dit, vous dites c'est plus un test pour Paris, non mais ça c'est sûr et certain quoi. Mais en fait, je voudrais pas. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas oublier que c'est aussi un test pour Lyon, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que on surgonfle Lyon sur leur début de saison et qu'on enfonce un peu Paris parce que il y a eu ce 2-0 à Louis II là. Mais je pense qu'en fait pour une équipe comme Paris, c'est plus facile de préparer un PSG Lyon qu'un Monaco PSG où tu sais pas trop, tu vois, les Monaco c'est l'inconnu quoi, tu sais pas comment je suis sûr qu'ils connaissaient pas trois joueurs sur le 11 de départ quoi. Donc, mon gougou, attends, tu le croises et tout, tu sais pas qui c'est, enfin tu le croises dans la rue, je pense que voilà, tu le prends pour le mec, l'ouvrier du coin, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le piège, c'est un peu un match piège, et là, un PSG Lyon, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que Cessegnon n'est pas là, tu sais que Erding n'est pas là non plus, c'est vrai que ça fait mal, hein, quand on voit l'effectif du PSG qui a un 11 assez solide, mais qui a pas trop de largeur d'effectif, hein, comme Marseille et Bordeaux. Ouais, voilà. Et donc, je pense que dans l'approche du match, c'est plus facile de préparer un PSG Lyon, et c'est la raison pour laquelle, je trouve que c'est plus Lyon a plus à perdre que Paris sur ce match, parce que bon, en même temps, si Paris il venait à faire une contre-performance à domicile, c'est jamais que la sixième journée, hein, donc c'est pas méchant. Mais par contre, Lyon, ça peut un peu les plomber, quoi, vu qu'on les a surgonflés.
Bah, c'est pas vraiment surgonflé, c'est qu'ils ont eu un calendrier avantageux surtout. Et ils ont dû demander ça à la Ligue parce que justement ils avaient un tour préliminaire. Donc voilà.
Ah non, mais c'est possible. Qu'as-tu faire ces petits caprices de gamin là, Olas là.
Non, mais tout le monde peut demander, tu peux faire des requêtes à la Ligue en demandant, par exemple, les gars du Nord là, ils voulaient pas jouer à me. En même temps, après, chacun peut demander quelque chose, voilà, je sais plus exactement, mais l'année dernière, Marseille, quand on avait joué le tour préliminaire, on avait aussi demandé d'avoir des matchs plutôt faciles en début de saison, donc voilà, quoi. Je pense que Lyon, ils ont dû demander la même chose.
D'accord. Il me semble
donc
que
moi, j'aurais une petite question pour Enzo.
Vas-y.
Oui, j'ai une petite question pour Enzo.
Dis-moi.
Donc, en regardant les stats du PSG, d'un point de vue strictement statistique, j'ai remarqué qu'il y avait deux de vos joueurs les plus décisifs qui n'étaient pas sur la pelouse hier. Donc c'est 2-1 Erding, comme tout le monde pourrait l'imaginer, et de 2 Jallet. Donc pour éviter la question bateau, y a-t-il déjà une Erding dépendance? J'ai envie de te dire pourquoi Jallet n'est-il pas titulaire.
En fait, Jallet, c'est un peu difficile à... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais on le considère un peu comme un espèce de Solskjaer à l'ancienne, tu vois, un espèce de super sub, un truc du genre. Jallet, c'était au dernier match contre Lille, une rentrée dans les 15 dernières minutes, une passe décisive, un but. Après, il y a le fameux débat qui s'instaure, est-ce qu'il faut faire jouer Jallet dès le début, ou est-ce qu'au contraire, on laisse Julie et on fait rentrer Jallet en fin de match. Donc, c'est le deuxième choix qui a été retenu par Camboré. J'allais rentrer aux alentours de la 70e, 75e. Et il a montré une envie, mais il a pas pu être décisif, comme de toute façon la plupart de l'équipe. Donc, voilà. C'est, euh, c'est plutôt un choix de l'entraîneur, quoi, clairement. Mais c'est vrai que bon, Giulia a fait un bon match hier, tout de même.
D'accord. Moi, j'ai une question.
Vas-y,
Mathieu.
Ouais, alors, puisque Erdim ne sera pas là, et c'est Seignon aussi, qui c'est qui va jouer à gauche? Est-ce que ce sera Jallet qui va rentrer sur un côté? Voilà, c'est ça ma question, en fait. Ouais, comment mettre en place ces Seignon?
Bah, moi, je pense que le mieux serait de mettre Giulia à gauche et Jallet à droite. Maintenant, connaissant Comboiré, je pense qu'on va avoir Giulia en pointe avec Waro et Luyendula à gauche. Mais le problème, c'est que Luyendula à gauche, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est pour vous montrer, il y a le match retour contre l'OM, par exemple, où il a été aligné à gauche, il a été assez transparent, et tu me diras pas le contraire, Mathieu. Mais bon, c'est vrai que Luyendula, c'est plutôt le genre de mec qui est capable de faire un appel en enlevant un défenseur de l'axe, en quelque sorte, pour laisser le champ libre à quelqu'un d'autre, plutôt dans le rôle d'un remiseur à la limite. Mais si tu le fous ailier à gauche, bon, pour moi c'est voué à l'échec.
D'accord. Et pas de possibilité de changement de poste, de changement de tactique, pardon.
Bah,
ça, tu sais, après, c'est on t'entend très mal.
On restera en 4-4-2 hein, de ce côté-là. Alors après, éventuellement, tu peux essayer d'envisager un 4-3-3. J'avais vu ça sur le forum tout à l'heure, qui pourrait passer, mais très franchement, j'y crois pas, quoi.
D'accord. Et donc, on penche vers un 4-4-2 avec donc Luyendula à gauche et Jallet à droite.
Et Giulia à droite.
Pardon, excuse-moi, je suis un peu enrhumé, c'est l'hiver. Enfin, non, pas encore, mais donc. Donc ça serait Jallet à droite, c'est ça?
Moi, en tout cas, ce que je ferais, ce serait Giulia à gauche et Jallet à droite. Mais je pense qu'on va se diriger vers Luyendula à gauche et Giulia à droite.
D'accord. Et en pointe, Waro avec Jean-Luc Maurice.
Après, c'est que voilà, ça va... Ah, t'imagines quand même? Non, mais c'est là que tu vois quand même que le notre banc est vraiment assez foireux, quoi. Mais alors là, il y en a qui vont te ressortir s'il y avait Kezman, machin et tout, je sais pas quoi, mais ça va dépendre, quoi. Je pense qu'on va avoir un Jules Waro en pointe, quoi.
D'accord. Mais ça, ouais. Ça, c'était sûr parce que, ouais. Ah, je t'ai coupé, je t'ai court-circuité.
Mais t'es tout d'accord?
Non, c'est... Non mais et qui à droite alors si Giulia serait en pointe avec Waro? Désolé, ça serait Jallet donc.
Jallet, ouais.
D'accord.
Oui.
Et quand Jallet arrive à point nommé. Donc c'est là qu'on voit l'importance en tout cas. Voilà, c'est ça. Là. Oui.
Non mais.
Oui. Vas-y Nassim.
Oulala, attention parce qu'on va croire que je me prouve. Vas-y. Appelle-moi comme tu veux, je m'en bats les couilles, c'est pas grave. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Alors ouais, donc ce que je veux dire. Ils ont un 11 assez consistant, mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient à manquer, ils vont être obligés d'exiler Luyendula à gauche et mettre Jallet à droite et faire une association de Giulia Waro, parce qu'en fait, tout simplement, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. C'est juste ça, parce que depuis que Roten, il a taillé aux Glasgow Rangers, il aurait pu servir de bouche-trou éventuellement, mais là, on est arrivé à un point où ils peuvent rien faire d'autre, donc la composition, elle sera sans surprise, elle sera comme l'a annoncé Enzo, tout simplement.
Eh ben, d'accord, et donc on va tout de suite donner la parole à Fat, qui a une question.
Donc lui, encore une question pour le petit Parisien. Après les 5 premiers matchs, regrettez-vous Michael Landreau?
Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Mais bien sûr que non. Même Coupé, tu vois, il dégage une espèce d'assurance quand même, tu vois. Tu sens le mec, il parle, tu sens que il rassure sa défense. Coupé, très franchement, Landreau, pardon, très franchement, c'était vraiment pas ça. Donc non, moi je suis vraiment moi pourtant qui ai craché sur Coupé pendant l'été en me disant, en gardant en mémoire le fameux France-Pays-Bas de l'Euro, je me rends compte que finalement il fait pas un sale début de saison, bien au contraire. Et puis c'est plutôt une bonne chose pour le moment.
Oui. D'accord.
Ouais, moi je rebondis sur Coupé. Moi personnellement, Coupé il m'a pas vraiment convaincu encore. Bon, j'ai pas vu tous les matchs de Paris pour être franc, hein. Mais déjà hier en voyant les deux buts, bon voilà, c'est des belles frappes croisées, mais bon, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. Je me souviens aussi, je crois que c'était à Valenciennes où ils prennent un coup franc puis c'est un autre but. Ou bon, il met un petit ça à s'allonger par terre, quoi. Donc bon, je sais pas, Coupé, c'est pas mal. C'est toujours mieux que Landro, mais c'est toujours mieux que Landro, mais voilà quoi, c'est pas. Voilà.
Ça, c'est sûr que c'est pas un Lloris ou un Mandanda non plus, mais bon, voilà. Moi, je trouve en tout cas que c'est pas si mal pour le moment. Après, voilà, comme tu l'as dit, à Valenciennes, sur le coup franc de Tiené, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Sur le deuxième but aussi, notamment hier, bon, il y a peut-être moyen de la sortir, mais après, bon, je t'ai dit, c'est.
On va parler du pareil, quoi. Il y a un comportement dans le centre, la défense, en tout cas, est.
Donc, apparemment, Enzo a un petit problème de son. Allo Enzo.
Ouais, tu non. Entendais mal. Ouais, donc je vous disais, même sans forcément parler de tout ce qui est.
Lâche-toi, crie dans le micro.
Ah, mais Mathieu avait une question, vas-y. Mathieu, je sais pas qui avait une question.
Non, en fait, c'est moi. Bah, bon, tu vas entendre, mais c'est surtout pour la réponse, ça a posé problème. Bah, avant de poser la question, je vais juste souligner la bonne performance de Coupé, c'était le PSG Le Mans. Bon, mais c'est juste pour rééquilibrer la balance, parce que il a quand même pas fait que des mauvais trucs. Mais donc, pour la question, je sais pas si tu te rappelles, au tout début, là, avant même que le championnat commence, c'est pour montrer à quel point le supporter de foot, il est pessimiste. C'est qu'en fait, en voyant le recrutement de Paris, bon, c'est la saison de la fille, bien sûr, hein, mais on disait, toi, Berck, Jallet, Erding, Coupé, mais où va le club, machin truc et tout. Et en fait, bon, moi j'étais de ceux qui disaient que le PSG était sur une pente ascendante parce que, voilà, ils ont terminé 6e la saison passée et je suis de ceux qui pensent qu'ils vont encore se hisser plus haut dans le classement. Et donc, en fait, finalement, c'est un désaveu pour ceux qui critiquaient le recrutement de Paris, en fait, ce qui est en train de se passer puisque tout le monde répond présent finalement.
D'accord. Ouais, d'accord. C'est un peu vrai, ouais, ce que tu dis, mais par rapport à ce que tu disais dans le sens où les noms étaient pas terribles, moi je te cache pas, c'était plus par rapport à la quantité que j'étais inquiet. Et ah, ouais, j'avais raison d'être inquiet. Voilà, c'est pas tant les noms, tu vois, parce que bon, j'allais sans être non plus le top niveau, c'est un mec qui réussissait à bien tenir sa place à Lorient. Erding, ça reste un mec qui a quand même un gros potentiel offensif. Donc, le recrutement, moi, m'a pas fait flipper tant que ça. Et c'est, voilà, la quantité, quoi. On aurait pu rajouter quelques joueurs, quoi.
Ok. Mais bon, ouais, c'est quand même, pour revenir juste au recrutement, c'était quand même un peu, je sais pas, un peu léger, un peu bizarre surtout, parce que j'allais là-bas, c'est un arrière droit, ils ont Serra qui est bon et qui prolonge, et ils l'achètent quand même s'il est polyvalent. Bon, après, Coupé, bon, ça peut être discutable, il y a que Erding où c'est vraiment un bon recrutement, un bon investissement. Mais après, derrière, par exemple, on sait très bien que Grotten allait partir, ils sont même pas capables de faire signer un milieu gauche, genre Souma ou un truc comme ça, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, ou, voilà, enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu décevant. Et là, on n'est qu'à 5 ou 6 journées, et voilà, s'il y a plus de, déjà là, Erding n'est pas là, déjà ça fout la merde, puisqu'il faut changer de formule, enfin, c'est un peu la merde, et voilà, s'il y a un ou deux blessés, peut-être que ça va être compliqué, quoi. Parce que sur le banc, il y a du monde, mais c'est à peu près tous les mêmes postes, quoi. Des milieux plutôt centraux ou milieux défensifs et, ou des très jeunes. Et voilà, c'est pas évident, quoi. Pour moi, ça va être chaud, quoi. Tout le long de la saison, ça va pas être, voilà, quoi. Pas de la tarte.
Bah, déjà, faut que tu saches que Jallet était venu en tant que doublure de Serra. Donc,
voilà.
Il était rentré à un poste de milieu droit en début de, je crois que c'était contre Valenciennes. Et effectivement, il marque et depuis, on l'a réutilisé à ce poste. Après, je suis d'accord avec toi en ce qui concerne les milieux gauches. Ça, je l'ai dit pendant tout le mercato, on n'a rien à gauche. Et on a mis ses saignons, mais voilà, quoi. Là, on se retrouve dans une position où on ne sait pas qui on va mettre à gauche.
Non, mais tu me dis que oui, c'est la double. Il est venu en tant que doubleur de Serra. Bon, ça, je le comprends. Je comprends, normal, quoi. Mais je veux dire, avant de prendre une doublure à Serra, il y avait peut-être des postes plus, voilà, des trucs plus importants à faire, quoi. Genre un gaucher, comme tu l'as dit, quoi. C'est dans ce sens-là que je trouve le recrutement un peu bizarre, quoi.
Et bienvenue au PSG.
C'est pas voilà.
C'est voilà.
Donc voilà. Par rapport à Coupé, donc malgré sa coiffure, Enzo le préfère à Landro. Et il n'y a pas d'autres réactions et je pense qu'on a fini par rapport à ce sujet PSG Lyon, même si on a beaucoup débordé sur Paris Saint-Germain. C'est pas pour déplaire à Enzo, un petit prono, oui, Enzo, avant de finir.
Moi je dis rien.
moi je vais porter la poisse, mais si on arrive à gagner au parc, ce serait une très belle chose.
D'accord.
Bah, si il faut faire un tour de table, pour moi, je dirais, 1-0 pour le PSG.
Convaincu. Hugo?
Un partout.
Mathieu?
Bon, alors moi en prono, je suis vraiment très très mauvais. Bon, la chance de Paris, c'est que Lyon aura un match de Ligue des Champions dans les jambes. Donc ça, c'est peut-être un avantage pour eux. Mais même, franchement, je vois pas Paris gagner. Donc moi, c'est au mieux un nul ou au pire une victoire de Lyon. Mais je vois plus un nul, moi. Genre un ou 2-2, un truc comme ça, quoi.
D'accord. Et donc, deux matchs nuls et FAP.
Une victoire lyonnaise, mais sans un score très large.
Donc genre 2-1 ou 1-0. On a de tout. C'est très mix. Et ben voilà. Et ben voilà pour ces petits pronos, pour cette petite partie par rapport au PSG. PSG Lyon, on rappelle, qui va se jouer dimanche à 21h chez nos confrères de Canal+. Et tout de suite, oui, je m'arrête pas tout de suite. Il va falloir qu'ils payent pour la pub. Hein. Et tout de suite, on va parler de Grenoble qui va très mal. Donc le jingle ne vient pas, merci Fap. Donc, juste avant de passer à Grenoble, je signale le pronostic de notre grand Khaled et sans bégayer qui nous dit 1-0 pour Paris. Voilà, donc tout de suite, on va parler de Grenoble qui est vraiment un chien.
Ouais, je peux y aller ou pas? Pardon.
On va faire un jingle. Vas-y, on va faire un jingle manuel avec Touko, vas-y.
Vocal,
Radio, Génération Soccer. Radio.
Merci, donc tu demandes si tu peux le faire alors que tu l'as déjà lancé. Vas-y Touko, on t'a bien coupé la part.
Ouais, bon, je suis habitué, c'est pas grave. Non, mais en fait, pour Grenoble, ça tombe bien. Parce qu'on a vraiment un mec là qui est parmi nous, qui suit très bien le club. Donc il va prendre la parole, non, je rigole. Non, mais en fait, ce que je veux dire sur Grenoble, c'est que, bon, l'année dernière, ils ont terminé, quoi, une 13e place, je pense. Et la particularité de cette équipe, c'est qu'en fait, c'est une équipe qui s'appuyait sur un gros bloc défensif. Hein, ça, je pense que tout le monde le sait. Et qui, en plus, tenait bien le ballon au milieu de terrain. Mais il n'y a jamais eu un gros attirail offensif à Grenoble. Donc je me demande s'ils ont marqué plus de 20 buts la saison passée. Enfin, c'était quand même des stats surréalistes en fait. Mais là, ce qui se passe, c'est que la défense, elle est mauvaise. Non seulement l'attaque est restée mauvaise, mais en plus la défense, elle se met à prendre l'eau. Et moi, j'ai vu des Grenoblois très faibles, notamment. Contre Marseille, j'ai vu l'intégralité du match. Ils étaient quand même médiocres, sauf qu'ils ont une bonne période en début de seconde mi-temps. Mais surtout, j'ai vu des bribes de match à Boulogne-sur-Mer. Ils étaient très très inquiétants. Donc, à mon avis, voilà ce qui se passe, c'est que ils ont non seulement ils ont gardé leur attaque faible, mais leur défense. Si en plus elle se met à prendre l'eau, ils peuvent plus rien espérer, quoi.
D'accord. Et donc, bah, comme tu l'as dit, on a peut-être le monde sur ce cœur, ce qui est le plus à même de parler de Grenoble. C'est bien sûr Hugo Narpi. Salut.
C'est gentil. Oui, je suis complètement d'accord. La saison dernière, on se basait sur un gros bloc défensif, même si j'aime pas énormément cette expression, mais bon, c'était avant tout notre grande qualité, c'était la combativité, l'agressivité, enfin c'est les principales qualités des équipes qui n'ont pas énormément de moyens et qui font avec ce qu'ils peuvent. Donc ça a marché, on s'est miraculeusement presque, puisque 24 buts, c'est très très faible. Maintenant, là, cette saison, on essaye tant bien que mal de produire du jeu un peu plus offensif, sans pour autant être beaucoup plus maître du ballon au milieu de terrain, mais forcément on s'expose à des attaques adverses, et quand c'est face à à Bordeaux, par exemple, la semaine dernière, c'est la merde. Et même face à Boulogne, ça nous a coûté très très cher. Maintenant, on peut dire que les joueurs ont leur part de responsabilité, mais la part de responsabilité, je la donnerai avant tout à l'entraîneur. J'adore Bastarevic, je l'aime, mais je dirais que là, depuis le début de saison, il se shit
monumentalement en alignant une équipe rocambolesque, soyons clairs. Donc on va commencer déjà avec la défense centrale qui est constituée la plupart du temps de Payot et Djemali, puisque César a été blessé, et ça c'est un très bel épisode puisque César a une insolation de 2 semaines. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu ça, une insolation de 2 semaines, les gars.
C'est un Slovène.
Je sais pas où il est parti. Ouais, bah ouais, mais bon. En même temps, il a vécu à Zagreb. À Zagreb, l'été, il fait 72 degrés. Donc, c'est bizarre. Peut-être qu'il supporte pas l'air des montagnes. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, bon, il a eu une insolation de 2 semaines. Il n'était pas dans le groupe. Alors, c'était pour le match à Saint-Étienne. 3 jours plus tard, il est titulaire avec la Slovénie. Il se blesse avec un contact avec Rooney, hein, comme on aime bien le prononcer sur Canal+. Et il se blesse, justement. Une semaine plus tard, il joue quand même avec la Slovénie. Mais apparemment, il y a deux jours, il n'était pas dans le groupe et il est encore blessé. Et apparemment, il en a encore pour un certain bout de temps. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qui se passe avec César. En tout cas, c'est la grosse merde, disons-le franchement. Pour le reste, donc voilà, revenons à la défense centrale. Donc, Payot, Djemali. Là, quand on regarde ça, c'est forcément, bon, c'est pas un mauvais choix, un peu de physique, c'est assez aérien, donc bon, ça passe. Sauf que Djemali a très souvent joué, même la plupart du temps, arrière droit dans sa carrière. Et en arrière droit, nous avons Vitakic qui est gaucher et défenseur central. Donc, on peut se demander pourquoi Vitakic ne joue pas en défense centrale avec Payot alors qu'il est gaucher. Payot et Gauthier qui sont complémentaires et que Djemali jouerait arrière droit alors sachant que c'est son poste de prédilection, mais bon, ça on ne saura jamais. Ensuite, au milieu de terrain, la saison dernière, le duo Batles Romao avec Romao en pur récupérateur faisait un travail exceptionnel. Batles en relanceur était très bon puisqu'il aidait aussi Romao dans la récupération. Cette saison, nous avons un duo de récupérateurs Romao Dieuze qui ne sert absolument à rien, et nous avons Batles en meneur de jeu alors que à 33 ans il n'a plus réellement les capacités de jouer à ce poste. Donc c'est un peu n'importe quoi. Ensuite, nous avons bon les multiples blessures, que ce soit de Fegouli, mais encore ça Fegouli, ça date pas d'hier, puisque pour une blessure au ménisque il met 6 mois à s'en remettre, bon ça c'est autre chose. Matsui qui se blesse et qui est absent encore pour un certain temps, on verra s'il sera dans le groupe pour le match face à Rennes la semaine prochaine. Bon, et la blessure de Tadic pour 2 mois. Il s'est blessé en match amical. Donc là, on peut aussi remettre en cause la préparation physique, puisque les 2 seuls joueurs en forme depuis le début de saison, enfin en tout cas depuis quelques matchs, sont Luboya, qui n'a pas du tout fait la préparation avec l'équipe de Grenoble, et Fegouli, qui était blessé et qui donc lui non plus n'a pas fait la préparation à Grenoble. Donc on se dit, il y a peut-être un petit problème. Alors, je peux comprendre que la préparation soit tronquée puisque le centre d'entraînement de Grenoble est fait d'Algeco et que fait un peu 45 degrés l'été à Grenoble et que c'est pas avec 3 ventilateurs dans les vestiaires que tu vas te rafraîchir. Mais bon, ça c'est autre chose. Ils ont fait des stages, apparemment ça s'est très bien passé. Bon, là depuis le début de saison, on a l'impression que les mecs se blessent en continu, qu'ils se donnent, ils se passent le relais pour être blessés. Donc voilà. Là on peut remettre en cause plusieurs facteurs. Et là, justement, moi, je vais remettre en cause surtout, je radote un peu, mais je vais mettre en cause surtout la disposition tactique de Bazarević, alors que on aurait pu jouer de la même façon que la saison dernière, en 4-5-1, mais avec des joueurs encore meilleurs à ce poste-là, avec Romao Batnes en récupérateur, Feghouli à droite, Matsui à gauche, qui est un vrai joueur de couloir, et Courtois dans l'axe, en meneur de jeu sur les contre-attaques, en 9,5 sur les phases offensives, avec Batles qui remonte pour être un espèce de meneur de jeu quand on campe dans le 30 mètres adverse. Là, on a Courtois à droite, Feghouli à gauche, un duo avec Tadic qui finalement n'est pas si rapide que ça et qui joue un peu, on ne sait pas trop où, il joue parfois même meneur de jeu, Luboya qui se retrouve tout seul en pointe, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc on me dit oui, mais on joue mieux, c'est sûr, on joue mieux, mais jouer mieux, ce n'est pas se précipiter devant, à courir dans tous les sens, et à se dire que finalement, si on est devant, on va peut-être marquer. Ben non, ça marche pas comme ça le foot, et donc c'est n'importe quoi, voilà.
Donc j'ai une petite question pour toi, Narpi. C'est par rapport au recrutement. L'année dernière, il m'avait l'air assez vieux comme recrutement. On avait pu voir une équipe assez âgée sur le terrain. Cette année, il m'avait l'air plutôt ambitieux avec des Nicolas Dieuze qui est sûrement revanchard après une saison ratée au Havre, des Yuboya, des Daisuke Matsui, et ou encore Sandy Payot qui les a beaucoup aidés l'année dernière. Mais j'ai envie de demander, est-ce que les vieux, entre guillemets, les 20B, Regragui, Flashes, tous ceux qui sont partis à l'intersaison, ne manquent pas cruellement une équipe qui maintenant est trop jeune et trop inexpérimentée pour la Liga?
Ah, c'est sûr. Alors pour Flashes, bon, il se faisait un peu vieux et puis il avait décidé de prendre sa retraite, donc là-dessus il y a pas de problème. Mais par contre pour Regragui, je suis tout à fait d'accord. En ce moment à droite, c'est n'importe quoi. On a eu Vitakic. Maintenant on a Mainfroid qui revient de 8 mois de blessure et qui a du mal à retrouver son niveau. Bon, pour Mainfroid, je suis quand même assez optimiste parce que je sais que il pourra toujours retrouver son niveau à un moment ou à un autre. On verra à partir de novembre. Mais c'est sûr que Regragui nous aurait fait du bien. Il dépannait au milieu de terrain, c'était un leader dans les vestiaires. Et puis il y a aussi le départ, alors le départ de 20B, qui pour moi est quand même pas spécialement sur le plan sportif, même si on voit qu'avec Viviani, malgré le fait que je le soutiens et que je pense que avec une défense un peu plus solide devant et sans Djemali quoi, mais une défense un peu plus solide devant, il aurait quand même un peu plus d'assurance et il ferait pas des petites erreurs techniques comme face à l'OM, parce que je suis désolé, sur le but de l'OM de Niang, c'est la défense qui se fait balader. Après certes il fait une petite erreur, mais bon voilà, il fait des petites erreurs, mais c'est surtout que il est pas du tout rassuré par sa défense. Donc pour moi, 20B, c'est avant tout le fait que il a été traité assez lâchement par le club. J'ai pas trop apprécié. Ça a été, on l'a mis à la porte presque, hein, alors qu'il nous, a, il est rentré pour moi dans l'histoire du GF 38. Et pour moi, il restera un des gardiens qui aura marqué l'histoire de notre club. Et puis il y a aussi le cas Moreira. Il devait venir, finalement il n'est pas venu, des pseudo problèmes de fax ou de malentendus, de je ne sais quoi. On ne fera pas gober ça, alors qu'à côté l'épisode Saugé est plus que ridicule. Soi-disant en juillet on devait le recruter, finalement il ne vient pas, vanté tel le chevalier blanc. Allô?
Oui.
Ouais, ça va, j'ai eu un peu de problème. Et bon, tel le chevalier blanc avait dit que nous ne recruterons pas de joueurs qui ne voudront pas venir à 100%. Alors là, toute la foule applaudit, nous sommes tous d'accord. Sauf que 2 mois plus tard, bah, le petit Sojé il débarque. Et finalement, on se dit, bah, pendant les 4 matchs, et même maintenant les 5 où il n'était pas dans le groupe, mais il nous aurait peut-être été un peu utile. Parce que Robin, je l'adore, mais Robin, quand il a le ballon, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il envoie des longs ballons sur Akrour. Akrour, c'est une biscotte, hein, donc dans des ballons aériens, le mec, là, tu sens que le type, bon, déjà, il saute, il sait même pas s'il va raterrir sur ses deux jambes. Donc le mec, il a quand même, tu lui envoies 30 ballons aériens, il en touche un de l'épaule, et puis c'est tout, quoi. Donc je pense que ce jet nous aurait été utile, et ce sketch montre totalement... le fait que là en ce moment c'est un peu la merde sur le terrain et c'est aussi un peu la merde dans les vestiaires, enfin dans le en interne, puisque on a tenté d'avoir Calvé alors qu'il a 75 000 euros par mois. C'est-à-dire que 75 000 euros par mois c'est impossible pour nous, surtout pour un arrière droit. On a tenté de négocier jusqu'au bout et puis on s'est rabattu sur Sojet. Enfin bon, il y a plusieurs joueurs de la saison dernière qu'on n'aurait pas dû faire partir. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Regragui, 20B, ou en tout cas 20B, le traitait mieux. Ça aurait été tout à notre honneur. Moreira et même le petit Francis Nganga, un arrière-gauche formé au club, qui était très prometteur. Certes, dans le repli défensif, il avait un peu de mal, mais il donnait toujours du sien. Il était très très bon offensivement. On l'a vendu à Tours. Bon, voilà. Ça résume totalement le fait que finalement ce mercato n'était que dans le bling bling. Bon, tout est relatif par rapport à notre club et que on a peut-être fait partir trop de joueurs qui étaient d'une part une certaine expérience et aussi des joueurs qui étaient là depuis le début dans le club et qui sont imprégnés de cette identité grenobloise, et ça on me contredira pas, qui connaissent le club. Et voilà, je trouve que c'est dommage de faire partir des joueurs comme ça. Et comme tu le dis, Fab, là on a une équipe inexpérimentée d'une part et une équipe qui a du mal à retrouver cette solidarité, cette combativité qu'on avait la saison dernière, tout simplement parce qu'on a aussi recruté des joueurs qui sont assez individualistes. Luboya pas tellement, mais bon, on verra quand il aura marqué 10 buts et que au mercato d'hiver déjà certains clubs iront le voir pour lui dire allez viens, t'inquiète pas, tu feras la Coupe du Monde avec nous. Bon, on verra comment il va changer, parce que pour l'instant Grenoble, ça a été sa porte de sortie, son issue de secours. On verra quand il aura certaines sollicitations ou quand il voudra renouveler son contrat et avoir une petite revalorisation de salaire. Et aussi des joueurs comme Matsui qui malgré tout sont aussi venus à Grenoble parce qu'il y avait des dirigeants japonais et qui pouvaient aussi relancer sa carrière en France. Enfin bon. Pour l'instant, on est dans le flou. On est dans le flou. On ne sait pas ce que vaut réellement ce mercato. Sur le papier, c'est beau. Bon, à part les deux milieux défensifs qui me font gerber, mais sur le papier, c'est beau. Mais sur le terrain, bah finalement, ça marche pas.
Ah, excuse-moi. Bah, merci pour ce gros récit. Non, je rigole parce que je peux pas m'empêcher quand je vois toutes les petites blagues que vous me sortez en off. Donc, les auditeurs, vous ne voyez pas ça pour vous. Hein, donc, par exemple, un petit échantillon, on va dire, hein, je ne citerai pas l'auteur. Flashes a sûrement été pris par un radar. Voilà, ou Barros a dit à Mbia, Barros, t'as les dents. voilà pour quelques échantillons. Ah, donc l'auteur restera anonyme, c'est pour son bien. Voilà. Donc j'en profite pour passer un coucou à Cash Mortel. On va tout de suite pouvoir enchaîner sur la rubrique je l'avais prédit. Si jamais Enzo n'a pas quelque chose à dire, mais Enzo a quelque chose à dire, donc vas-y, lâche-toi.
Bah, en fait, je voulais juste te poser une question, Hugo. J'étais en train de lire l'équipe dimanche, oui, je lis l'équipe, et il disait qu'apparemment il y avait eu des supporters qui avaient lancé des saloperies sur Batless. Il s'est passé quoi en fait?
C'est complètement faux. Alors là, c'est de la désinformation pure. C'est de la. Voilà, c'est de la. Voilà, c'est donc c'est de la désinformation pure. C'est n'importe quoi. La bouteille était pour l'arbitre de touche qui avait une nouvelle fois fait une connerie, mais bon, ça c'est pas très important. Dans le dans l'euphorie du match, forcément, tu vois, ce geste en avant avec le majeur de la main gauche et la bouteille d'eau de la main droite en moulinette. Pour balancer, forcément, quand t'as 2-3 coups dans le nez, bah tu vises pas forcément très juste. Bon. Le mec, à la base, c'était la tête de l'arbitre, ça finit dans les pieds de Batless, mais il n'y a aucun problème là-dessus, c'était bien l'arbitre qui était visé. D'ailleurs, je le salue si vous écoutez. Et voilà, donc il n'y a aucun problème par rapport à Batless. Batless fait partie des joueurs les plus appréciés du public grenoblois. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Il l'a même dit lui-même après le match. Il a eu aucun problème. Il a toujours eu des très bonnes relations avec les supporters grenoblois. Donc forcément, c'est notre capitaine. À aucun moment, on ne penserait jeter une bouteille d'eau sur lui ou l'insulter. Donc là, une fois de plus, bon, les journalistes ont mal interpréter un geste, bon, c'est dommage. J'ai vu ce matin dans l'équipe qu'ils avaient rectifié en faisant une petite touche d'ironie sur le fait que c'était finalement l'arbitre qui était visé. Bon, voilà, je pense que l'incident est clos. Laurent Batless est assez intelligent pour comprendre et pour bien voir que ce n'était pas lui qui était visé. Enfin bon, il n'y a aucun problème. Les supporters grenoblois sont à fond derrière l'équipe. Là, on est à froid, on critique, on balance des trucs. Bon, je sais très bien que tout ce que j'ai balancé, si je le balançais un quart devant la tête de Bazdarevic, je me prendrais un coup de machette. Donc voilà. Là, on est dans à froid, on critique, mais quand on va au stade, on est toujours derrière l'équipe. Et je pense qu'on l'a assez démontré. Quand on était à Marseille, on était mené 4-0, ça nous empêchait pas de faire la fête. Enfin bref, donc c'était pas, il y a eu aucun problème. Il a été aucun problème par rapport aux joueurs. On sera toujours derrière eux, même si on est dernier au soir de la 38e journée, on les applaudira, on leur dira merci. On versera nos petites larmes en disant que finalement, bah voilà, on a passé que 2 ans en Ligue 1, mais on a vécu de belles choses et que c'était finalement, on est tous heureux d'être présents pendant ces 2 années historiques pour le club. Et puis voilà, donc les joueurs le savent, ils sont soutenus à 100%, et puis voilà. Donc là-dessus, aucun problème. Il n'y aura jamais, et là je m'avance, il n'y aura jamais de la part des supporters grenoblois une quelconque manifestation de haine, que ce soit, alors après ça peut être des sifflets, mais bon, les sifflets c'est rien du tout, que ce soit des insultes, que ce soit des projectiles envers les joueurs grenoblois. Ce sera toujours soit vers l'arbitre, soit vers les supporters adverses, soit vers les joueurs adverses, mais jamais vers nos joueurs. Voilà.
Ouais, moi, bon, au-delà des résultats, parce que bon, Narpi connaît bien le sujet, bon, à chaque fois on a plaisir à l'entendre. Mais au-delà des résultats sportifs, on sent que la saison de Grenoble, elle tourne un peu. Enfin, ça fait déjà 2 pénaltys qu'on leur oublie. Donc déjà la main de Varro contre Saint-Étienne et là Planus. Planus, le joueur qui est soi-disant sous-estimé d'après Riolo, bon, ça c'est au passage. Mais bon, il met une main, et ben, les arbitres, une fois de plus, pendant les 2-3 premiers matchs, ils sifflent, ils disent qu'il y avait bras décollés, par exemple pour Marseille, la faute de Diawara. Bon, de toute façon, c'est soit Marseille, soit Paris qui servent d'exemple à chaque fois, donc ça c'est pas nouveau. Et là maintenant, ils ont décidé de plus siffler. Donc Marseille aussi, je crois que c'est, je sais plus quel défenseur du Mans ou Lyon, je sais plus qui, avait mis une main et il n'y a pas eu pénalty. Et encore on a gagné, donc moindre mal, et puis bon, je vais pas revenir là-dessus trop. Voilà. Mais bon, Grenoble, ça fait 2 fois qu'ils se font avoir à ce petit jeu-là. Donc il faudrait que les arbitres accordent un peu leur violon parce que ça commence à être saoulant, quoi. Marseille, ça va, on a réussi à revenir au score à gagner, donc il n'y a pas de souci. Mais pour Grenoble, un but ou voilà, c'est un truc assez important parce qu'on parle de relégation, il y a un problème financier si t'es retrogradé, enfin bon.
Voilà. C'était tout par rapport à Grenoble, Mathieu?
On l'a perdu, Mathieu, je crois. Hein.
Ah, on l'a perdu, Mathieu.
Je vais devoir le recontacter, parce que bon, c'est...
Mathieu est tombé dans la diabète.
Pour ouais. lui répondre, je dirais que bon, on commence à avoir l'habitude. L'arbitrage n'a jamais été très clément avec nous la saison dernière. Monsieur Picciarello ne me contredira pas, mais c'est, enfin, on commence à avoir l'habitude. Et puis, je pense autant, oui, le penalty contre Bordeaux, Planus l'a avoué lui-même. Il y a penalty, on est d'accord. Autant bon, le penalty contre Saint-Étienne. Bon, moi je trouve ça un peu, on va dire que c'est à peu près ses limites. Voilà, je pense que si j'avais été de l'autre côté, j'aurais trouvé scandaleux qu'on siffle penalty sur cette action. Maintenant, moi ce que je reproche, alors après, c'est sûr que dans les faits, on peut se dire qu'il y a penalty, surtout contre Bordeaux. Moi, après, ce que je reprocherais avant tout, et justement, après, je pars dans un truc où je me dis que j'essaye de me convaincre qu'il n'y a pas penalty, parce que je vois après les déclarations des joueurs et l'attitude des joueurs en disant bon, on a perdu parce que l'arbitre nous a baisé. Non. Bon, l'arbitre, certes, vous a baisé, mais c'est parce que vous avez baissé le froc et vous êtes déjà à quatre pattes. Voilà. Donc, sinon, il vous aurait pas baisé puisque vous auriez déjà mis trois buts. C'est clair et net. Donc, là, je pense que, certes, on peut dire qu'il y a pénalty, certes, l'arbitrage vous est plutôt défavorable depuis le début de saison, mais je pense que ça, même si l'arbitrage avait été correct, je pense qu'on sera à peu près dans la même situation parce que ça changerait pas énormément de facteurs et que finalement quand on voit les joueurs grenoblois à la 92e minute de jeu à Saint-Étienne qui sont tous les mains sur les genoux avec la langue en disant ah, je vais mourir machin, et puis qui à la 94e tape des sprints de cow-boy pour aller gueuler sur l'arbitre. Je me dis que finalement, les gars, si vous aviez couru aussi vite pendant tout le match, on aurait peut-être gagné.
Non, mais attends, moi je veux pas faire une polémique ou monter du buzz autour des histoires des pénalties ou pas.
Moi je suis
anti-vidéo, je mets pas ça en premier. Tu vois, quand je parle des matchs, je dis pas ouais, l'arbitre c'est enculé. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, les arbitres font un buzz énorme en parlant des bras décollés, des machines, des trucs, et au final, trois journées après, voilà, il y a des cas qui se posent, des bras décollés, et il y a plus personne. Donc voilà, c'est juste ça qui m'énerve, et c'est pas par rapport au match de Grenoble que j'ai pas vu d'ailleurs. Hein, donc je suis franc, je dis pas que grâce à ça ils auraient très bien pu gagner ou tu vois, mais ce que je veux dire, c'est surtout par rapport aux arbitres qui ont un début de saison font du buzz, et après trois journées après entre une grève, entre deux trucs, voilà, ils sont déjà passés à autre chose quoi. C'est juste là-dessus, c'est juste ce point-là que je voulais souligner, c'était pas voilà.
Ouais, non, mais t'inquiète pas, j'ai compris. Dans les faits, il y a penalty là-dessus, il y a pas de problème. Il y a penalty. Et puis bon, je suis d'accord avec toi sur le fait que quand les mecs te disent respectez-nous, machin, ils te t'inventent des nouvelles consignes à la con sur les mains, et que finalement bah t'as deux mains flagrantes et que t'as deux mains flagrantes qui sont pas sifflées alors que l'arbitre dit bah elle est pas volontaire, alors que deux mois plus tôt il disait que ils allaient plus juger la main sur le fait qu'elle soit volontaire ou involontaire. Enfin ouais, c'est un peu, oui, c'est contradictoire, et c'est sûr que là c'était sur des Saint-Étienne Grenoble ou des Bordeaux Grenoble. Le jour où ça arrivera pour un OM PSG ou OM Lyon, je pense que les arbitres se remettront peut-être aussi en question sur leur communication et sur le fait d'appliquer les règles qu'ils ont inventées eux-mêmes.
D'accord. Eh ben merci Hugo, tu étais vraiment inspiré, c'est ça, comme d'habitude.
Ah ouais.
C'est pas pour les clairs. Okay. Alors donc tu vas... Juste pour avant de se mettre dans le vin, non, lapsus par révélateur. Donc avant de se mettre dans le bain, eh ben on va avant de commencer la petite rubrique présentée par Touko, le petit jeu tout nouveau, tout beau. Voilà. Alors tout de suite, on va faire un petit prono par rapport à Grenoble-Rennes. Oui, j'ai une sale connexion. Et donc Hugo, comment tu le sens, Grenoble-Rennes?
La passion me dirait qu'on va gagner sur, on va gagner 1-0 sur un but de Payot de la main ou un truc comme ça. Enfin bref, un but à l'arrache et finalement ce serait encore plus beau que si on gagnait 4-0 puisque ça, on retrouverait la magie de la saison dernière. Mais la raison me dit qu'on va faire soit 0-0 soit un partout.
Ouais, bah, pour ma part là cette superbe affiche. Grenoble-Rennes, allez, je prends un risque. Alors, quoi qu'il arrive, je coche 1 sur ma case de l'autofoot, donc autrement dit victoire de Grenoble, mais je vais dire 2-0. Ça peut paraître beaucoup parce que Grenoble qui marque 2 buts, enfin le lendemain il pleut de la merde quoi. Mais allez, je prends le risque 2-0 pour Grenoble quoi.
D'accord. Voilà, donc bon. Tout de suite.
Bah, tout le monde s'en bat les couilles, là, vas-y.
Oui,
le tour de table à 2 personnes.
Donc bah tout de suite. Comment ça s'appelle ta petite nouveauté?
T'as pas tout en tête, t'es la
nouveauté. Ah bah d'accord, surprise. Donc tout de suite, la petite nouveauté.
Radio.
Génération Soccer.
Ouais.
Génération Soccer. Paris Célébré Spécial.
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 Paris Célébré Spécial. Paris Célébré
Spécial. Steak. Ferme ta gueule.
Ah, mais... Allez,
vas-y, tu vas pouvoir parler, t'as de l'écho 18 fois là. Enfin bref. Donc ouais, donc ma nouvelle rubrique s'intitule je l'avais prédit, parce qu'en fait bon, on s'aperçoit que quand on parle de foot, on dit toujours des trucs avant les matchs, ouais, il va se passer ça, il va faire ça, il va avoir tel score et compagnie, mais une fois que le match il est passé hein, quand on se trompe ou quand on dit la vérité, on pense jamais à dire ah, je l'avais dit et compagnie. Donc là en fait, j'ai eu l'idée de dire, ben voilà, j'ai pris un exemple en fait, c'est je l'avais prédit, et qu'est-ce que j'avais prédit moi? J'avais prédit que Marseille, l'Olympique de Marseille, Didier Deschamps en l'occurrence, a changé son système de jeu. Donc pour rappeler le contexte, Didier Deschamps, avant même que la saison commence, a annoncé la couleur, et avait dit qu'il jouerait en 4-3-3 en fait. Donc finalement ce 4-3-3, quelque part c'était sous-exploité Mamadou Niang parce que c'était l'exilé sur le côté gauche et Mamadou Niang c'est quand même le Marouane Chmar noir hein, de Marseille, donc il aurait été plus judicieux de le recentrer et le recentrer ça ouais exactement et donc le recentrer ça passait par un changement de système et parallèlement à ça il y avait le retour de Lucho Gomes et donc il aurait été difficile de dire à Abriel ouais comme Lucho il fait son retour, toi, bah, tu vas t'installer gentiment sur le banc. Et en fait, maintenant, ce qui se passe à Marseille, c'est qu'il joue en 4-4-2, donc le 4-4-2 en losange, avec le milieu en losange, comme Bordeaux, en fait, comme le Bordeaux de cette année et de l'année dernière, sous l'ère Laurent Blanc. Et un peu, pour ceux qui s'en souviennent, parce qu'il n'y a sûrement pas que des footix sur le comme auditeur, mais un peu comme la France à l'Euro 2000, c'est-à-dire que ils avaient un système pareil en 4-4-2 milieu en losange avec Didier Deschamps à la pointe du enfin en milieu récupérateur pur, piston droit Patrick Vieira, piston gauche Emmanuel Petit et meilleur de jeu donc bien sûr Zinedine Zidane. Et donc en fait voilà, j'avais prédit que Marseille allait changer le système et que c'était pour leur bien quoi, parce que c'est avec ce système je trouve qu'on peut tirer le meilleur de tout cet effectif pléthorique quoi. Donc voilà, je l'avais prédit, je l'avais écrit sur le blog qui s'appelle vatefairefoot.com et donc en fait j'avais rédigé ça avant le match de Bordeaux en fait et finalement Didier Deschamps m'a écouté.
Oui, donc en ce qui concerne une bonne prédiction, ça concerne le topic OM en début de saison. Je l'avais prédit, Brandao a les capacités de prendre de vitesse un adversaire.
Ouais, mais attends, c'est Cyriac Louvion.
À FIFA ou à PES? Tu nous as pas dit.
Peu importe, il a prouvé qu'il avait de la vitesse dans les jambes, qu'il était un attaquant technique, vif et rapide, et rien que pour ça, il a tout mon respect.
Mais attends, juste parce que quand même c'est intéressant de discuter de ça. Enfin, attends, parce que le mec qui l'a pris de vitesse, enfin, tu me dis si je me trompe, mais il s'appelle Cyriac Louvion. Il a déjà été pris de vitesse par Sterling, mais au Parc des Princes justement, c'était lors de la victoire parisienne. Est-ce que tu penses que quand on s'appelle Cyriac Louvion, on peut se permettre de rattraper à la course un mec même Brandao ou Kabadiawara, je sais pas. Enfin, est-ce que tu penses que c'est pas dû au fait que justement c'est Cyriac Louvion quoi? Est-ce que ça demande pas confirmation?
J'aimerais pouvoir te répondre, mais je ne connais pas personnellement ce Cyriac Louvion.
En l'occurrence, j'ai entendu parler qu'il avait quand même une sacrée pointe de vitesse et qu'il était quand même dans les tout meilleurs défenseurs de France. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je vais attendre confirmation. Ouais, par exemple, bien. Demain face au Milan. S'il prend de vitesse, je sais pas moi. Inzaghi peut-être. Peut-être un duel d'attaquants rapides entre Inzaghi et Brandao. J'attends demain pour avoir une confirmation.
Non, mais au-delà de la blague, Brandao, pour son gabarit, a quand même une bonne pointe de vitesse. Je crois que ça.
Bah c'est vrai parce que c'est pas facile pour lui avec le centre de gravité qui est assez haut. C'est vrai que pour sa taille un peu, son air un peu maladroit là, c'est vrai qu'il a une bonne pointe de vitesse quoi. Je suis d'accord. C'est un peu sa queue de cheval là, c'est un peu.
C'est au démarrage qu'il a un peu de mal.
C'est l'aérodynamisme, tu vois, c'est exprès quoi. Genre le crâne dégagé et juste la queue derrière.
Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que t'as dit, Touko, j'avais dit la même chose que toi. Et on en a.
Non, mais attendez, juste un truc. Là ça part en fait qui avait raison, qui a dit des conneries en fait.
Bah, en fait, si tu veux la rubrique, bon là parce qu'on l'inaugure ce soir, mais c'est là pour ce soir on va faire. Je l'avais prédit pour lancer, donc qui avait raison. Et si vous voulez, bah les semaines prochaines, on pourra faire. Bah je m'étais planté quoi. On pourra faire des petits thèmes là-dessus quoi.
Rubrique Ego Trip.
Voilà, c'est ça. Ouais, voilà.
Alors, puisqu'on est dans l'Ego Trip, reprenez tous mes posts sur Topic OM, Simon en arrière et.
Ouais, si c'est passé. Sur la cour des miracles.
La rubrique J'ai le melon.
Voilà.
Pour reprendre l'expression des beaufs populaires.
Donc, pour revenir à ce que je disais, merci de m'avoir coupé la parole. Par rapport à ce que t'as dit tout.
Toujours un plaisir.
J'avais dit la même chose. Et on a une preuve orale. Enfin, orale. Auditive. Eh ben, vas-y. Donc, on n'a pas encore, oui, on a des problèmes de magnéto, l'équipe en fait n'est pas très vive, oui. Donc, est-ce que Dan, tu as la preuve orale?
Non, mais on te croit sur parole. On te croit.
Non, mais...
On enchaîne un peu.
Avant que Dan prépare donc la petite preuve orale, Narpi, toi. Hugo, donc qu'est-ce que tu as prévu, qu'est-ce que tu avais prédit, que... donne-nous ton...
Alors moi c'est légèrement merdique, c'était sur... étonnamment j'ai prédit beaucoup de choses par rapport à Lyon, d'une part bon la victoire de Lyon au Vélodrome, mais bon ça je suis pas le seul, j'avais prédit aussi sur cette radio qui est Génération Soccers, que si Juninho devait partir de l'OL, ce serait au Qatar. Alors que beaucoup de gens le voyaient partir au Brésil.
Exact.
Et j'avais prédit un petit ménage dans l'équipe type lyonnaise. Ça a été fait puisque Sissoko, Pjanic, Bastos, Gomis et Lisandro, qui sont 5 joueurs, à peu près la moitié de l'équipe, a été changé par rapport à l'année dernière. Donc voilà.
D'accord. Non, mais qui se masturbe avec son micro là, on pourrait savoir un peu là.
C'est pas.
J'ai peut-être. Allo, oui, Touko, c'est toi?
Non, c'est non, j'ai une copine. Ah non, mais j'ai un ami.
Il est revenu le chauffeur.
Un gros souffle de porc là, des Ardennes là, vas-y. Sans piquer.
on imagine hein, qui c'est. Et d'ailleurs, en parlant, donc tu parlais de Lyon, et ben moi je n'avais pas prévu justement que Claude Puel passe en 4-3-3.
Ah ouais, c'est bien de le reconnaître.
Non mais je le reconnais. Ouais. Mais j'attends toujours mon passage oral.
Oral, il va te mettre dans la bouche ou quoi, tu crois?
Génération Soccer. Replay.
Mais pourquoi pas dans un 4-4-2 en losange, en milieu axial droit, un peu comme l'année dernière, pourquoi pas dans ce poste-là, avec Lucho devant, et Cherou et Mbia derrière, ou Cissé, pourquoi pas dans un 4-4-2 en losange, mais dans un 4-3-3 dans cette configuration, je le préfère en relayeur droit. Ça n'empêche pas de prendre le couloir droit quand l'ailier droit, à savoir c'était Ben Arfa, soit quand l'ailier droit repique dans l'axe, ça n'empêche pas de prendre ce couloir justement.
Je fais pas souvent des compliments, mais pour le coup, le 4-4-2, je l'avais absolument pas vu venir, et c'est loin d'être con ce qu'il vient de dire, Roméo. Non, mais c'est vrai, franchement, je n'avais absolument pas envisagé cette possibilité-là, et c'est vrai que passer avec Mbia et côté gauche, enfin côté gauche, axe gauche plutôt, axe droit, un peu comme ce que fait Chelsea avec...
Et ben voilà.
Oh non,
je crois pas. Que génération Twitter, c'est la radio des visionnaires.
Ah, attends, alors moi je vais démonter le ce qu'a dit Roméo, parce que c'est, en fait il est pas allé chercher bien loin, parce que l'année dernière Guéret faisait ça déjà, 4-4 de losanger. Et aussi j'ai lu sur francefootball.fr que peut-être il y aurait un OM à la sauce bordelaise, mais parce qu'on allait jouer en 4-4 de losanger. Mais en fait voilà, le Guéret joue comme ça l'année dernière, donc on n'a rien pompé à Laurent Blanc ou à qui ce soit. Donc voilà, et puis bon, après pour le 4-4-2 en lui-même, peut-être que Deschamps a mis ça en place pour que justement Lucho fasse moins d'efforts, moins de replis, et qu'il soit plus près de ses attaquants. De l'autre côté, ça l'arrangeait bien, puisque côté droit on n'avait personne, puisque Koné n'est pas là, Ben Arfa il veut pas le faire jouer parce que d'après lui il fait le ramadan, parce que j'ai compris, donc ça le gêne que de le faire jouer, enfin bon c'est un peu bizarre. Il y avait la solution Valbuena, mais Valbuena comme il sert à rien, donc voilà. Mais au final, le 4-4 de losanger, c'est pas mal, j'aime bien ce schéma aussi, parce que ça permet à Nyanga Brandao d'être bon recentré dans l'axe, et c'est complémentaire, donc c'est bien. Par contre, Cherou et Abriel, bof quoi. Abriel, il s'est pas mal replié, il a gratté des ballons, mais Cherou, je le trouve moins bien dans ce schéma-là. Parce que ce qui est compliqué en 4-4 de losanger, c'est que sur les côtés, c'est difficile à gérer. Parce que les mecs, ils savent peut-être pas s'il faut vraiment attaquer, vraiment défendre, vraiment être dans l'axe, vraiment être sur le côté. Après, est-ce que les latéraux doivent monter, pas monter? Enfin, c'est un truc, c'est un schéma assez compliqué à mettre en place, je trouve. Donc, le 4-4 de losanger, déjà demain, je pense pas qu'on, je sais pas, mais je sais pas si Deschamps, ne repassera pas en 4-3-3, à mon avis, passera en 4-3-3. Mais je sais pas si c'est juste un coup d'essai ou s'il va vraiment, mettre en place ce schéma dans la durée. Mais voilà.
Et tu sais, Mathieu, en fait, tu parlais de Koné là qui était absent, donc ça, en fait ça l'arrangeait, mais finalement Koné, même quand il va revenir, je pense que c'est pas le genre de joueur qui fait des histoires quand il est pas titulaire. C'est le remplaçant idéal pour entrer en cours de match, donc je pense que ça pose pas de problème. Et en plus quand on voit l'entente Nyang Brandao, bon certes c'était que contre Cyriac Louvion, mais c'est pas grave quoi, c'est toujours ça. Donc il y a quand même une entente qui est sur le fond de l'attaque Nyang Brandao qui est manifeste. Et ensuite concernant Abriel Cherou, bon bah c'est juste un coup à prendre quoi, c'est juste un réglage à prendre, mais sinon ouais, le système il est cohérent. De toute façon, imagine tu fais un 4-3-3, ça veut dire que tu demandes à Abriel finalement de revenir sur le banc quoi, en fait.
Ben ouais, moi ça me dérange pas quoi. Le mec il est venu pour ça, enfin il sait très bien que il est venu dans un poste, on va dire, de voilà, semi-doublure. Donc voilà, moi je vois pas où est le problème. Après c'est sûr que voilà, chaque schéma a ses avantages et ses inconvénients. Tu vois, par exemple là, en 4-4 de losanger, l'attaque ça marche nickel. Mais après, je sais pas si au milieu, je sais pas quoi. J'ai du mal à voir. En tout cas, c'est bien parce que Deschamps, bon voilà, il a deux schémas. On le sait, c'est pas comme Guéret qui changeait de trois fois de schéma par match. Quoi. Ça nous change, ouais, un peu. Quoi.
Bah comme Abriel et Chirouche, c'est des joueurs de devoir quoi. Et je pense qu'ils vont se mettre le cul par terre et finalement ça va, ils vont choper le rythme quoi. Ça, c'est pas grand chose pour eux. Enfin moi c'est ce que je pense quoi, en voyant ces deux mecs là quoi. C'est pas des mecs qui vont traîner les pattes, ils vont rapidement s'adapter quoi.
Bienvenue sur Génération Soccer.
Ah putain.
Et ben voilà. Donc la transition est toute faite, on parlait de Marseille. Et qui c'est le premier club français à commencer la Ligue des Champions demain? Qui c'est qui va inaugurer TF1, Christian Jean-Pierre et Jean-Michel Larquet? C'est bien sûr Marseille. Elisa Razoul pour sa première. C'est Marseille qui reçoit le Milan AC, donc pour ce choc marseillo-milanais. Oui, j'ai travaillé mon texte, ça se voit. Et donc à 20h45 demain, et on parlait du schéma, et normalement, tu me confirmes, Mathieu, normalement, le 4-4-2 devrait être reconduit demain, c'est assez logique.
C'est pas ce que j'ai entendu, moi.
Il a dit le contraire tout à l'heure.
Ouais, ouais.
Ah bah vas-y,
Ben non, ben j'ai cru lire, je sais plus si c'était l'équipe ou la Provence, comme quoi, même si le 4-4 de Los Angeles a été mis en place contre le Mans, mais que sûrement Deschamps allait repasser dans son schéma habituel. Donc la semaine prochaine, ne me sortez pas que j'avais dit ça, parce que j'ai lu ça dans la Provence ou dans l'équipe, tu vois.
Tu l'avais prédit.
Ouais, voilà, tu vois, je l'avais prédit, et demain je joue en 4-4-2, je passe premier, ça se voit.
Bah moi, je l'ai lu sur la Cour des Miracles, en fait, bah, sur le Topic OM, on va le renommer comme ça.
Ah mais la Cour des Miracles, il faut laisser tomber, donc...
Donc je pense que ta source est un peu plus sûre.
Non, fait, je sais pas, j'ai lu ça dans la Provence ou dans l'équipe, je sais plus, mais voilà. Non, moi je pense pas que Deschamps va s'amuser demain à mettre un 4-4-2 losangé, je sais pas. Moi je le sens pas, après je peux me tromper, mais je pense qu'on repassera en 4-3-3. Ouais.
D'accord. Oui, Enzo.
Moi je voulais poser une question, Mathieu. Bonnard, il risque d'être titulaire demain?
Bon alors d'après ce que aussi j'ai lu ça comme quoi il allait être forfait ou peut-être qu'il ne jouerait pas. Bon déjà il est dans le groupe d'après ce que j'ai lu. Donc ça c'est une chose. Après le problème de bon moi Bonnard je suis pas un fan, donc ça j'ai dit plusieurs fois à l'antenne, pour moi c'est il n'amène aucune valeur ajoutée à l'équipe, il fait son taf en défense mais offensivement il amène rien, il apporte rien. Bon tu me diras avant on avait Bay qui faisait un centre tous les 6 mois donc on est rodé à ce poste-là. Mais le problème c'est que si Bonnard n'est pas là, Deschamps fait confiance à, non pas à Bocali.
Non, ouais.
ne fais pas confiance à Bocali mais à Caboret. Et Caboret, on a voulu m'expliquer que c'était un bon arrière droit, mais à chaque fois que par exemple contre Lille, il y a 3 occasions mais chaud raid d'alerte et ça passe par lui de son côté. Et donc Caboret moi j'apprécie pas quoi. Et voilà, donc à la limite pour un match comme ça, je préfère avoir Bonnard qui je sais que défensivement sera bien présent, sera là plutôt qu'un Caboret qui va essayer de faire des centres un peu spéciaux et bon des centres qui vont arriver à destination mais je sais pas des ballons un peu bizarres quoi, genre comme si tu tirais avec des ballons corner en plastique pour ceux qui ont à peu près mon âge, des ballons que tu tires et qui partent en 50 directions ouais. Différentes. Ouais, fait un peu à la Olivier Tom. Donc voilà, mais voilà, donc à choisir, je sais pas qui sera titulaire, mais à choisir, même si je l'aime pas, je préfère que ce soit Bonnard que Caboret, voilà.
Ouais, mais enfin, si quelqu'un a un générique de blague, hein, Bonnard, c'est un bon arrière-droit, quoi.
Voilà. voilà.
On peut enchaîner, je pense.
Ouais. Voilà.
Désolé. allez, pardon, les mecs, ouais, laissez pas dans la merde.
Pardon, tout court. Hop, voilà.
J'en trouverai des meilleurs, ouais, en or.
Non, tu te ressaisiras, je pense. Donc et Bonnard pas là et donc ça serait apparemment Caboret qui serait pressenti. Donc voilà. Et par rapport au match en lui-même, je sais que t'as pas l'habitude d'être confiant, hein, Mathieu, mais comment tu te sens par rapport à Milan, au Milan qui a fait donc 0-0, je le rappelle, contre Livourne samedi dernier. Et qui a perdu 4-0 la journée d'avant contre l'Inter de Milan.
Pour vous expliquer, j'ai pas vu le match, j'ai écouté le match à la radio avec un confrère, comme j'ai dit tout à l'heure, un confrère, Avi Assouli. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est bon, voilà, c'est faut le connaître. Voilà. Et lui nous expliquait que mentalement on était mieux parce qu'on avait gagné contre et physiquement on sera mieux parce qu'on a gagné contre le Mans 2-1 et que Milan fait 0-0. Mais je préfère que Milan soit mené 2-0 et qu'il gagne 3-2. Ça veut dire qu'ils se seraient envoyés et qu'ils auraient tout fait pour revenir au score. Tandis que là, à mon avis, j'ai pas vu le match de Milan, mais à mon avis, ils ont dû attendre, ils sont pas fatigués, donc ils vont être bien. Et puis voilà, bon, après, tu dis que je suis défaitiste, c'est vrai. Beaucoup disent, oui, bah, de toute façon, l'Inter a mis 4 buts à Milan, donc bon, bah, voilà, Marseille, on va leur mettre un 0, puis ça ira très bien, quoi. Mais voilà, c'était Milan, quoi. Et moi, j'avais vu le match, et c'était vraiment une leçon de football. Même à PES, voilà, tu fais pas ce que l'Inter avait fait ce soir-là. C'était vraiment impressionnant, donc voilà. Et surtout que le Milan avait fait une belle demi-heure, une belle première demi-heure, donc voilà. Mais bon, moi, ce qui me fait peur, c'est Inzaghi, c'est Pato, c'est voilà, c'est tout ça quoi. Donc moi, Milan, ça reste Milan. Milan, même s'ils font une saison pourrie en Liga, c'est sûr que en Ligue des Champions, ils seront là. C'est leur compétition. Puis voilà, c'est dans leur ADN, tu vois. Donc le truc, c'est que moi, voilà, le tout, c'est que j'espère qu'on sera pas ridicule, comme j'ai eu l'occasion de le dire, et qu'on sera là qu'on ne sera pas complexé, qu'on va y aller vraiment, que les joueurs et les recrues seront capables de se hisser à au niveau Champions League, que voilà, Enze par exemple, voilà, j'espère que voilà, j'ai des doutes le concernant, et bon là, après son trip en Argentine, enfin en Amérique du Sud, j'espère qu'il sera revenu dans de bonnes conditions. Enfin bon, voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, moi je Milan reste Milan, voilà.
Tu l'as mis, hein, tu l'as mis. Oui, je parlais d'Hunt, parce que oui, donc Hunt ne peut pas animer ce soir, puisque, bah, vous savez, il joue demain à Marseille avec le Milan AC. Voilà, c'est pourri. Merci, je sais. Voilà, donc... en tout cas... Donc désolé chers auditeurs, vous ne comprenez pas le délire en place, en fait, c'est que Touko vient de sortir une blague assez... Mais il est en forme ce soir. Donc bref, reprenons-nous. Touko, stop. Ça suffit. Donc, d'ailleurs...
Non, attends. On me chante parce que j'ai dit Milan, c'est Milan, mais j'attends avec impatience les autres analyses, les gars.
Mais non, mais c'est pas...
La Fiorentina, ça reste la Fiorentina, hein. Enfin, c'est... Pour les autres analyses, ça va être ça.
Non, mais c'est concernant l'OM et Milan, quoi.
Ah. Non, mais c'était en même Milan, mais t'as raison, ça reste Milan. Ah, merde.
C'est pas... Non, mais quand je dis Milan reste Milan, tu comprends ce que je veux dire, c'est que même si ça en prenne 4 contre l'Inter et que voilà, ils sont pas en forme, ils ont pas recruté machin, en Ligue des Champions, ils seront là, quoi. Voilà, c'est ça que je veux te dire, quoi. Ouais. C'est pas du style, voilà.
Ah non, mais je vois, c'est toujours un calibre au-dessus de Marseille, hein, sur le papier, pour reprendre une expression.
Ah, fait, bah, non, moi j'ai quelque chose à dire.
Ils sont pas plus forts que Marseille. Hein. Sur un match, ouais. C'est possible.
Bon, après, si je vais être positif et si on peut sortir des lieux communs encore, on peut dire que les Italiens ne sont jamais prêts en début de saison et qu'ils font des grosses préparations physiques, donc c'est bon de les prendre maintenant.
Ouais, ça, j'y crois plus, ça, cette connerie. Moi, j'y crois plus. Voilà, bah, moi, sur le match concernant Marseille-Milan, parce qu'il va bien falloir que quelqu'un parle un jour, quoi. Donc, je pense que, ouais, encore l'année dernière, ou il y a 2 ans, on aurait repéré un écart conséquent entre Milan et Marseille. Mais cette saison-là, justement, là, début du mois de septembre, enfin mi-septembre, Marseille a toutes ses chances. Donc, ils n'ont pas grand-chose à envie au Milan AC, même pas le poids du vécu en LDC, machin truc, les conneries comme ça. Aujourd'hui, qui peut... qu'est-ce que Marseille a envie à Milan? Concrètement, rien. Ils ont... Il y a rien, moi je vois pas de différence, quoi, le milieu de terrain, il y a pas non plus un écart monstre, même pas du tout d'écart, l'attaque pareil, la défense pareil, gardien n'en parlons pas, enfin si Mandanda joue bien sûr parce qu'il est incertain. Donc voilà ce qui devrait donner pour moi un bon 0-0, quoi, ou du moins un match nul, parce que là franchement pour ce que j'ai vu de Milan cette saison, ils viennent de débuter la saison, je vois vraiment pas d'écart, quoi, j'arrête pas de radoter, mais si quelqu'un, ce qui serait intéressant, c'est que quelqu'un me dise si concrètement en quoi Milan est supérieur, quoi, avant le match, ça serait bien.
Moi, tu veux que je te réponde là-dessus? Déjà, intrinsèquement, je sais pas, mais déjà Milan a un vécu en Ligue des Champions. Tu vois, et les joueurs ont une grosse expérience de la compétition. Par exemple, Gattuso, je sais pas combien de matchs il a fait de Ligue des Champions. Inzaghi, c'est avec Raoul le meilleur buteur de la compétition. Enfin bon, il y a un vécu, il y a quelque chose quand même. Il y a l'expérience du très haut niveau. Alors qu'à Marseille, voilà, à part bon Enze, Morientes y rentre, bon Niang qui a dû faire une trentaine de matchs et voilà. Mais déjà, il y a ça, quoi. Ils ont une expérience supérieure à la nôtre, quoi. Ça, c'est indéniable. Hein.
Ouais, mais tu sais, Marseille, là, dans un passé récent, ils ont deux participations consécutives à Ligue des Champions. En fait, tu prends tous les joueurs individuellement de Marseille et ils ont tous joué à la Ligue des Champions là dans un passé récent et ils ont eu en tête, bon, Liverpool, ils se sont pris une sodomie là, le 0-4 au Vélodrome, mais sinon ils ont bien tenu tête. C'était le match aller au Vélodrome quand il y a eu 2-1. Ils ont été un peu trop gentils. Pour égaliser. Pareil au match retour, ils ont perdu que 1-0, mais ils n'avaient pas grand-chose à envier. Donc maintenant c'est Marseille aussi. Ils commencent à avoir le vécu, quoi. Ça commence à venir. Donc quand même, si ils perdent contre Milan, bon, 1-0 encore, ça, ça va quoi, ça peut passer quoi, mais bon, maintenant ils ont plus le droit de prendre des corrections comme ils ont pris lors de Marseille Liverpool ou la PSV Eindhoven Marseille, là, pour ceux qui s'en souviennent. Donc un nul c'est franchement à leur portée, voire une victoire. C'est pas non plus, ils rencontrent pas Barcelone quoi, c'est bilan.
Oui. Et donc vas-y, n'aie pas peur, ne te fais pas doubler.
C'est juste pour vous rappeler que l'année dernière on avait fait trois très bons matchs, les trois premiers. L'année d'avant, on avait fait trois très bons matchs, les trois premiers, et finalement on a vu ce que ça a donné. Donc même une victoire face à un Milan qui pour le moment n'est vraiment pas top, n'est pas franchement un gage de sûreté pour le reste de la compétition, dans le sens où il reste quand même deux confrontations face à Madrid, et que dans le sens aussi que je suis convaincu qu'on va se faire piner par Zurich dans un match bête, comme les Marseillais ont l'habitude de perdre avec les Serim, Mlada Boleslav et consorts. Mais je pense que malgré tout la confrontation de demain est déjà vitale pour la deuxième place. Parce que, dans un sens, le Real sera sûrement premier, très loin devant tout le monde. Et après, les deux clubs moyens qui restent, c'est Marseille et Milan. Parce que Zurich, pour moi, ils sont hors course sur 6 matchs. Mais ils peuvent faire chier un petit peu les Marseillais, les Milanais, à mon sens. Donc, je pense que le match de demain est déjà capital et donnera une bonne impression de ce qui pourrait être le classement du groupe à la fin des 6 matchs de poule. Et je vois pas Marseille gagner demain, dans le sens où malgré tout, je vais pas répéter ce que Mathieu a dit en disant que Milan reste Milan, mais l'expérience est là, la classe des joueurs est là, et même si c'est, on sent bien dans les discours de Leonardo que c'est pas forcément la Gay Pride chez eux en ce moment, bah ça reste pour moi une meilleure équipe sur le papier, et qu'en Ligue des Champions ils ont toutes les capacités de démontrer qu'ils sont quand même un cran supérieur à l'OM, du moins sur un ou deux matchs.
Ah mais juste un truc, parce que je sais que il y a d'autres personnes qui ont demandé la parole, mais c'est en fait c'est parce que comme je vais réagir à ce que t'as dit, t'as parlé des matchs de Zurich, Madrid et tout, mais en fin de compte, bon là on est en train de parler que du match de demain, donc de toute façon c'est forcément vital parce que c'est un mini championnat de 6 journées, donc il faut quoi, il faut 10 points, mais il faut 10 points pour passer en 8e de finale, donc ouais c'est forcément vital en fait, si t'as 2 défaites dans un mini championnat à 6 journées, t'es mort en fait, mais en fait là on parle juste du match de demain, donc se projeter sur Marseille ils vont se faire taper par Zurich et Madrid sera leader, bon je sais pas, c'est pas très utile quoi, enfin pour moi hein, mais c'est là on parlait juste du match de demain quoi.
Peut-être que c'est juste le match de demain, mais pour moi ça va beaucoup plus loin qu'un simple match, la confrontation de demain. Et pour moi, elle doit entraîner une répercussion certaine sur ce que sera le classement à la fin. Parce que pour moi, je le dis encore, le Real est inaccrochable. Que ce soit déjà pour Marseille, c'est inaccrochable. Pour le Milan, à voir. Mais moi, je suis convaincu que si Marseille perd demain, Marseille perd toute chance. Et j'insiste sur le toute chance de figurer en 8e de finale de la Ligue des Champions cette année.
Ok, c'est noté. Voilà, il l'avait prédit. Je rigole.
De toute façon, Dan garde les gens
vraiment. Trois syllabes, t'es mort. Désolé pour ceux à qui j'ai coupé la parole. Hein,
C'était moi. Ce n'est fait que moi. Excuse-moi, il me semble que c'était Hugo qui voulait un peu se
mouiller.
Oh, on a pensé au même mot.
Ouais, bah mouiller, ça nous connaît, nous. Hein.
Allez, vas-y, Hugo.
Ouais, en fait, moi, je voulais juste dire un petit truc. Je pense que la clé du match, au-delà du milieu de terrain, c'est-à-dire que je pense que... après, je sais pas comment... J'ai pas réellement regardé le Milan ces dernières semaines, donc je pense qu'il y a Gattuso, apparemment, il devrait être titulaire. Alors, je sais pas s'il sera vraiment titulaire, parce qu'il revient de blessure, mais il y aura Gattuso, Pirlo, peut-être Seedorf ou Ambrosini, etc. Je pense que là, Marseille a largement la place de tenir tête au Milan AC, mais surtout la clé sera au niveau de la défense centrale marseillaise. Comment ils vont réussir à gérer le duo Pato-Huntelaar, surtout non, Pato.
Le chiffre sera Inzaghi, excuse-moi de te couper.
Ah, ça,
le chiffre qui sera Inzaghi avec Pato. Ouais.
Ouais, c'est pire encore. Ouais, c'est presque encore pire vu les prestations de Huntelaar derrière moi. Mais ouais, donc là j'attends de voir comment va réagir la défense centrale Diawara à Inze, parce que on se souvient, alors c'était pas Diawara à Inze, on se souvient tous de ce match, pas forcément le 4-0, mais le 2-1 de Liverpool avec Torres qui avait mis la misère à la défense marseillaise, notamment pendant le 4-0, voilà, c'était pendant le 4-0 où Torres s'était baladé dans la défense avec un Givet, ouais, et un Rodriguez qui lève le bras, alors on sait pas pourquoi il lève le bras, peut-être qu'il était aveuglé par la coiffure flamboyante de Torres, mais enfin en tout cas voilà. Et je pense que ce sera la clé du match, parce que quand on regarde le match de Rennes, Rennes-Marseille, où Asamoah, je crois, avait mis la misère à Inze en première période, où Inze avait été pris très très souvent de vitesse. On se souvient aussi du match contre Lille, où quand Gervinho et Hazard sont entrés en jeu, ils ont mis réellement le feu dans la défense marseillaise et c'était assez difficile de les contenir. Donc on verra surtout Pato, parce que Pato, malgré qu'il ait 19 ans ou 20 ans, il est excellent et je pense que là si Diawara et Inze arrivent à contenir le duo d'attaque Pato-Inzaghi, derrière ça devrait couler tout seul. Voilà, c'était juste pour...
D'accord, merci.
Ouais, de toute façon, j'aimerais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Pour la défense, c'est vrai qu'on parle d'une défense qui est assez bonne et on a pris qu'un but sur penalty, c'est vrai. Bon, Diawara, je pense que lui, même si parfois il a des sortes de concentration, je pense que bon, ça ira. Bon, moi, depuis le départ, j'ai toujours des doutes sur Enze, je sais pas comment on dit, mais je le saurai jamais, je crois, mais bon. Enze, ouais, je sais pas. Et, ouais... Et voilà, donc de toute façon, la Ligue des Champions, là aussi, c'est nul quand même, mais c'est vraiment un révélateur, quoi. C'est-à-dire que si demain, ils sont vraiment minables, les deux, on verra qu'on a une défense, voilà, quoi, qui est pas si bonne que ça, et qui est peut-être un petit peu surcotée. Mais moi, ouais, voilà, c'est surtout Inzaghi qui est toujours bien placé, voilà, le mec, il est recordman, meilleur buteur en Ligue des Champions, Pato qui est hyper rapide. C'est vrai que, voilà, il faudra que tout le monde soit au niveau. Mbia, par exemple, lui, c'est un joueur que j'aime bien, mais il est un petit peu jeune. C'est son premier pas en Ligue des Champions. Est-ce qu'il va réussir à tenir le coup? Bon, après, selon, je pense que si on part sur un 4-3-3, il y aura Lucho et Chéroux. Donc, Chéroux, on sait que c'est quelqu'un qui peut élever son niveau de jeu en Ligue des Champions. Lui, il n'y a pas de problème. Lucho est clairement en manque de rythme. Donc, j'ai peur qu'il fasse de la peine à voir un peu, quoi. Même s'il a déjà encadré sous le pied, c'est un petit peu compliqué, quoi. Je sais pas, quoi. Voilà, c'est... Voilà.
D'accord. Et je pense qu'on a bien parlé de Marseille, mais on n'a pas parlé de Bordeaux et on n'a pas parlé de qui?
De Lyon.
De Lyon. Et ben tout de suite on va pas parler de Lyon. Je me suis trompé dans mon enchaînement. Ce sera, c'est pas grave. On va parler de Bordeaux. Donc on va parler de Bordeaux. Le jingle ne s'est pas lancé.
Tu es un vrai passionné? Le foot n'a pas de secret pour toi. Viens rejoindre l'équipe de Génération Soccer.
Voilà. Si le football n'a pas de secret pour toi et que tu ne t'appelles pas Catch Mortal, eh ben viens nous rejoindre. Voilà, viens parler sur Génération Soccer. Ça aura l'occasion de parler avec Narpi. Voilà. Donc apparemment ça vous emballe pas trop. On va pouvoir tout de suite parler de Bordeaux avec Nitifab. Vas-y, donne ton ressenti par rapport au match de Bordeaux qui va suivre à Juventus. Bordeaux, ça sera pas au Dédé Alpi, parce qu'il me semble qu'il y a des travaux. Donc, vas-y.
Donc, moi, par rapport à ce match-là, je vois ça comme le match le plus déséquilibré en faveur des clubs italiens, entre dans des trois. Parce que la Juve est en forme, Bordeaux n'a pour moi pas l'étoffe d'un grand d'Europe, et n'a pas forcément non plus l'étoffe d'une équipe d'un soir qui peut faire basculer le match à lui tout seul avec un gouffrant face à un Gianluigi Buffon par exemple. Moi je pense plutôt que ça va ressembler à un remake de l'année dernière. Dans le sens où la Juve va mettre une pine à Bordeaux. Et je me mouille beaucoup ce soir, vous aurez remarqué. Mais je pense que la Juve va mettre une pine à Bordeaux, comme Chelsea l'avait fait l'année dernière. Et que, dans le fond, c'est peut-être pas plus mal pour les Bordelais. Parce que jouer la Ligue des Champions, ça ne leur fera pas gagner un second titre. Je pense qu'ils n'ont pas forcément toutes les qualités. Quand on voit que Gourcuff, qui enchaîne deux matchs pourris en équipe de France, est complètement claqué. Pour jouer un match banal de Ligue 1, je me demande quand il va enchaîner des matchs de Ligue des Champions, qu'est-ce que ça va être pour ensuite prendre le ballon à Mathieu Coutadeur le samedi soir. Mais je vois pas Bordeaux faire quelque chose cette année. Je les vois plutôt en UEFA faire peut-être une belle performance en UEFA, ce qui serait plus raisonnable.
S'il la joue à fond.
Mais comme dit Laurent Blanc, l'objectif reste le maintien pour Bordeaux. Donc moi, je vois pas Bordeaux faire quelque chose en Ligue des Champions. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti par rapport à ce que je vois de la Juve déjà, de leur groupe en général, etc., etc.
Ouais, Enzo devait prendre la parole et il est plus là, c'est ça que c'est... Non, t'es là.
Oui, je suis toujours là.
Vas-y.
Ouais. Moi, je vais un peu dans le sens quand même de Maxime. Je pense que la Juve est au-dessus quand même. Après, je voudrais pas tomber dans le cliché à la con. Évidemment, on sait que sur un match, tout est possible. Mais, je vois vraiment, en tout cas, la Juve. Je dirais pas gagner assez tranquillement, mais en tout cas, je vois la Juve capable d'imposer ce type de jeu à Chaban. Après, ça reste un match de Ligue des Champions. Ça fait un peu con de dire que Bordeaux peut gagner. C'est un peu le petit contre le gros, mais je pense effectivement gagner à Bordeaux.
Ouais. Alors bon, ça tombe bien parce que vous avez deux avis convergents. Le hasard veut que je pense un truc. Enfin, j'ai une opinion opposée à la vôtre en fait. Que finalement le Bordeaux-Grenoble là qu'on a vu, pour ceux qui l'ont vu le week-end dernier, c'est une chance quoi. C'est un avertissement sans frais qui s'est passé au Bordeaux-Grenoble. Là, ça va permettre ce match complètement médiocre qu'ils ont produit. Ça va sûrement les permettre de se remobiliser parce que c'est plus facile de se motiver quand tu reçois la Juventus que Grenoble hein, encore. Enfin non, parce qu'ils reçoivent pas Juventus. Pardon, quand tu vas à la Juventus que de recevoir Grenoble, hein, sans faire injure bien sûr. Attention. Parce que toujours des mecs qui vont se vexer, mais en fait, donc Bordeaux finalement l'année dernière en Ligue des Champions, ils se sont mis à quatre pattes. Hein, faut dire ce qui est, ils ont perdu 4-0 à Chelsea, on les a quittés sur un match pitoyable à la Roma 2-0. Mais là, je pense qu'avec les joueurs qui prennent de la bouteille, là, tout ce qui est Gourcuff, Chalmé, Alou Diarra, des joueurs comme ça, Fernando, enfin bon, j'ai pas tous les nommés, mais Marwan Chmar bien sûr, mais je pense que pour eux là en allant à Juventus, je pense pas qu'ils vont ça va être la déroute annoncée quoi. Vous savez quoi, je les vois même gagner. Voilà, c'est un peu présomptueux, mais avec le vécu qu'ils ont en Ligue des Champions, je pense que Bordeaux n'est pas à sous-estimer. Je pense qu'il faut pas trop les rabaisser. Et voilà, comme les Italiens en septembre, on sait jamais, ils ont trois matchs dans les pattes, Bordeaux ils en ont un peu plus. Je pense que Bordeaux n'est pas à rabaisser pour ce match-là.
offensive. Ils ont fait un gros recrutement. Il y a peut-être Diego qui sera pas là, mais je pense que bon, sur le banc, il y a des solutions. Ce week-end, Trezeguet a joué, donc ça montre bien qu'ils ont vraiment fait tourner. Donc Bordeaux, même si c'est vrai, a pris de la bouteille, a du vécu. J'ai de là à les voir gagner à la Juve. Franchement, non, j'y crois pas, moi.
Ah, c'est vrai que c'est présomptueux ce que j'ai dit, hein. je te le cache pas. C'est gagner à la Juve, quand même, ça paraît surréaliste, quoi. Mais bah voilà, c'est juste en fait depuis que j'ai vu le match Bordeaux-Grenoble, en fait, je me dis, mais ils vont forcément, tu vois, il va forcément se passer un truc. Ils vont se dire, on peut pas continuer comme ça. Et vu que justement, c'est la Juventus de Turin, bah voilà, ça motive un max, quoi. Donc et puis aussi pour la Juventus, en fait, parce que là on parle du côté français, mais si on se passe du côté italien, c'est un peu comme si, tu vois, le Bordeaux, il recevait le Sporting du Portugal, tu vois, tu sais pas, c'est un peu le match piège, tu vois, tu sais pas s'ils sont bons ou s'ils sont forts ou s'ils sont moyens. Donc tu connais pas grand-chose de cette équipe, et du coup ils te prennent par surprise, parce que finalement il s'avère qu'ils sont pas aussi nuls qu'on veut bien le dire, quoi, pas aussi gentils qu'on veut bien le dire. Enfin, je sais pas si vous
savez. Ouais, non, je comprends ce que je veux dire, je comprends, mais à mon avis, je pense que la Juve ne va pas prendre le match par-dessus la jambe. Je pense qu'ils connaissent très bien Bordeaux. D'ailleurs, ils veulent faire signer Chamac. Donc ça veut dire qu'ils ont dû le voir jouer, ils ont dû voir les matchs, enfin, tu vois. Je pense qu'ils savent à qui ils vont avoir affaire. Je pense pas que la Juve en particulier va laisser des détails comme ça, et à mon avis ils sauront très bien quoi faire, comment le faire, et bon, voilà.
Ouais, c'est vrai, on l'avait prédit. Non, mais c'est vrai que vous êtes plus en position de force, parce que dire que Juventus va l'emporter en qui plus est à domicile, c'est sûrement vous qui aurait raison finalement. Donc c'est, en fait, votre opinion elle se vaut largement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est juste, en fait, moi la chance de Bordeaux, c'est que justement c'est voilà le fameux match piège pour les favoris, quoi. Donc désolé, on va un peu bricoler, improviser là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match?
Non.
Si vous me dites non, du coup on va enchaîner sur le match Lyon-Fiorentina. Donc voilà, Lyon qui va jouer à domicile, une équipe contre laquelle ils n'ont pas perdu la saison dernière. En fait, il y a eu un match nul de partout à domicile à Gerland, et ils revenaient de très loin. Il y a eu une victoire là-bas en Italie, et donc voilà, ils reçoivent cette équipe qui est maintenant une valeur sûre de la Serie A. Et qui a gagné le week-end dernier, une équipe qui s'appuie sur un 11 assez consistant, qui bouge pas trop, pas vraiment de turnover, et donc voilà, une équipe qui se connaît bien, qui est pas trop renouvelée, je vais pouvoir me prononcer. Moi, je vois la Fiorentina prendre sa revanche par rapport à la saison dernière. Pourquoi? Parce que Lyon, ils ont pas trop d'opposition là en ce début de saison. Je trouve qu'on les gonfle un peu trop, et j'aimerais bien les voir descendre un peu leur piédestal. J'en fais une affaire personnelle, je les prédis.
On a compris. Ouais.
Et donc, comme tu vois, ils sont qualifiés, hein, en battant Anderlecht et tout, journée porte ouverte, machin truc. Donc là, je les vois bien, tu vois, se faire un peu rabaisser par la viole.
Donc moi, en ce qui me concerne, je vois une victoire lyonnaise, parce que quoi qu'il arrive, tous les ans Lyon va en 8e de finale, et que cette année, je pense pas qu'avec l'équipe qu'ils ont, ça échappera à ça. Donc je pense qu'ils vont aller tout droit en 8e de finale, en finissant soit premier soit deuxième. Je pense même qu'ils peuvent finir devant Liverpool. Aux confrontations directes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Quand on a vu l'année dernière face à un Bayern, je les vois faire les mêmes résultats face à Liverpool. Et si je peux même me permettre une petite avance, je vois pas Liverpool se qualifier pour les huitièmes de finale. Ouh. Je vois Lyon-Fiorentina. Bon, après, c'est un gros pari, mais pour moi, ça serait Lyon-Fiorentina. Avec Lyon premier. Donc je vois les Lyonnais commencer leur chemin vers les huitièmes de finale dès après-demain.
Ouais. Vas-y. Allez-y, les gars.
Ouais, bon, en fait, moi je pense que ça devrait passer. Ça devrait passer, il n'y a pas de problème. La Fiorentina en ce moment, ça reste une équipe. ça reste une équipe plutôt bonne, mais avec l'épisode Moutou, tout ce qu'il y a autour, je vois à peu près qu'un seul, enfin deux joueurs vraiment dangereux dans cette équipe, c'est Gilardino forcément et Montolivo. Ça devrait passer pour l'OL, surtout à domicile. Ils vont pas faire les mêmes erreurs que la saison dernière sur le match aller où ils avaient encaissé deux buts assez bêtes par des erreurs de marquage avec les deux buts de Gilardino. Là, ça devrait passer tranquillement. Je vais pas m'avancer autant que Fab par rapport à Liverpool. Je dirais quand même que Lyon finira premier du groupe, mais bon, je pense que Liverpool finira aussi en huitième de finale. Ils ont du mal à commencer, c'est-à-dire qu'ils font la fameuse préparation des grands clubs européens où on monte en régime au fil de la saison. C'était la même chose il y a deux ans avec Marseille qui, lors du dernier match, pouvait se qualifier, et avec un Porto qui avait dominé facilement le groupe. Là, ça s'est passé il y a deux saisons, ça passera aussi cette saison, même si la Fiorentina et Lyon semblent plus forts que Porto et Marseille à l'époque. Là, franchement, ça devrait passer, et prendre 3 points dès le début à domicile face au principal concurrent direct, enfin, si on compte pas Liverpool, principal concurrent direct pour la qualification, ça va leur donner la confiance, ils sont sur une bonne dynamique, enfin bref. Je pense sincèrement que cette saison, Lyon, pour la phase de groupe, n'a pas grand-chose à craindre, contrairement à justement, il y a deux saisons où ils avaient dû arracher leur qualification lors de la dernière journée sur le terrain des Rangers. Là, c'est franchement, je me fais pas de soucis, je me fais beaucoup moins de soucis... Je me fais beaucoup moins de soucis forcément pour Lyon que pour Marseille ou Bordeaux, même si le groupe reste quand même assez difficile, puisque la Fiorentina commence à avoir une certaine expérience en Ligue des Champions et aimerait forcément aspirer à une qualification en huitième et en a les capacités. Et puis il y a Liverpool qui commence toujours difficilement ses saisons pour les finir en trombe. Donc voilà, je vois Lyon premier, je vois Lyon battre 2-0, si on doit retrouver dans les pronos, je vois Lyon battre 2-0 la Fiorentina assez facilement en maîtrisant le match, voilà.
Ouais, je vous rejoins un peu en tout cas les gars sur ce point-là. Je pense quand même que, moi l'impression que j'ai c'est que Lyon joue le match le plus facile parmi les trois clubs français. Je vois vraiment pas. Je vois quand même la Fiorentina poser quelques problèmes, mais je pense que Lyon devrait s'en sortir après-demain. Après, bon, j'irai pas jusqu'à dire non plus qu'ils finiront premier du groupe. Je pense de toute façon qu'il est bien trop tôt pour commencer à parler de ça. Mais en tout cas, je pense que Lyon va être capable de prendre 3 points très à
Ouais, bon, j'enchaîne parce qu'apparemment plus personne ne veut parler.
Non, c'est pas ça, c'est surtout qu'on n'entendait pas trop en fait, donc j'avais pas trop s'il avait fini ou pas, Enzo. Mais c'est ta raison, enchaîne.
Oui, donc comme Touko, tu disais tout à l'heure, moi aussi j'ai hâte de voir Lyon face à une vraie équipe, parce que c'est vrai depuis le début de la saison, c'est pas qu'ils sont gonflés ou qu'on en fait un flan avec eux, mais il faut dire qu'ils ont rencontré que des équipes plus faibles qu'eux, voire très faibles. Donc c'est sûr que forcément, voilà. Donc moi j'ai hâte de les voir contre une grosse équipe, une équipe de bon niveau européen. Donc c'est bien sûr l'équipe la plus faible des trois représentants italiens. Donc c'est sûr que pour Lyon ils partent avec un avantage. Bon, le problème c'est que la défense de Lyon elle fait quand même un petit peu peur, parce que Chris il a quand même du mal, Bodmer c'est toujours un peu tangent. Mais je pense quand même que Lyon gagnera, ou au pire fera un match nul. Bon, sans sous-estimer la Fiorentina quand même, parce que c'est des joueurs quand même assez bons techniquement, physiquement, qui sont présents. Ils sont réputés pour avoir un des plus beaux jeux en Italie. Donc voilà, il faudra se méfier, mais je pense que pour Lyon, ça passera quand même. Hein. Je pense pas qu'il y aura une déconvenue, genre une défaite, un truc comme ça, ça j'y crois pas. Après le résultat ou le score, dire voilà, je pense que c'est soit une victoire, soit un nul pour Lyon, mais je pense pas qu'il y aura une défaite en tout cas.
Ouais, moi ce que j'en dis, c'est qu'une défaite de Lyon, enfin ça serait pas une surprise, hein, parce que attention, Fiorentina plus faible des trois Italiens, Fiorentina, tu fais un Fiorentina Milan en match aller-retour aujourd'hui, je suis pas sûr que Milan il surpasse la Viola, hein, donc franchement là, Lyon en fait le principal danger pour eux, c'est qu'ils risquent de se retrouver contre un gros calibre, là ça va les changer un peu et ben voilà, on les attend au tournant, on verra s'ils sont si rodés que ça et tout, et là les Chandro Lopez Mania et tout, franchement en plus contre une équipe de la Fiorentina qui se connaît bien, tu vois, qui a un 11 quand même assez assis, quoi, qui t'as pas de gros chamboulement dans l'effectif, ben voilà je l'avais prédit, Lyon zéro, Fiorentina 1. Donc en fait, pour moi, ça me fait une défaite d'un club français Lyon, un match nul d'un club français Marseille 0-0 et une victoire pour Bordeaux, donc au Dele Alpi ou je sais pas dans un autre stade, mais une victoire de Bordeaux 2-1. Donc voilà, ça me fait un bilan d'un nul, une victoire, une défaite. Donc on peut peut-être terminer par un tour de table, je sais pas si c'est possible.
Donc toi, Mathieu, par exemple, tu verras quoi? Tu verrais quoi, Mathieu?
Ben moi, comme j'ai dit, c'était plutôt soit une victoire pour Lyon, soit un nul.
Ah, t'as pas droit au double, attention. Hein.
Tu peux ouais, je sais. Ouais, je sais pas. Ouais, j'irai victoire de Lyon, une petite victoire. Ouais. Avec un petit écart.
Oui, et donc, quelqu'un d'autre pour un pronostic?
Ah, je vote 2-0 pour Lyon.
2-0 pour Lyon, ok. Ouais.
Il faut dire à Dan de garder les enregistrements pour qu'on les ressorte tes pronos la semaine prochaine.
Oh, t'inquiète, j'ai mon petit stylo 4 couleurs, hein, jeune homme. Bien.
Donc pour moi, ça sera 3-0 pour Lyon.
Waouh, ok, donc voilà. Voilà qui est noté. Journée porte ouverte du côté de la Viola. Donc. Donc ouais, bah écoutez, hein, ma foi, on a tout dit là, on a tout dit sur les trois clubs français engagés, et donc pour terminer l'émission, on va peut-être faire un petit jeu pour bien terminer, quoi, en guise de dessert. Vous êtes chaud, bah on y va. Génération.
The best radio in Paris. Génération.
Keep it locked
on Radio Generations.
Voilà un jeu. Alors là, je vous préviens tout de suite, c'est un jeu à la con. Mais c'est simple. Hein. C'est ça, le principal avantage, c'est que c'est simple à comprendre. Donc là, vous êtes quatre animateurs. En plus de moi, ça fait 5. Mais comme je joue pas, parce que j'ai pas envie de m'afficher, donc ça fait 4. Donc vous allez avoir deux mecs qui vont s'affronter. Le principe du jeu, en fait, c'est je vais demander à un animateur de me dire le poids d'un joueur de foot. Par exemple, je sais pas, moi je dis le poids de Gignac. Alors Gignac, il pèse combien? Il pèse, à votre avis, vous direz combien là comme ça?
78 kilos.
87.
85.
Tous les chiffres qui sortent là. Ah, il manque un chiffre, je crois. Allez vite, hein, je sais que tu cherches sur internet. Ah. Allez. Non, Norpi, tu veux pas dire.
84 kilos.
Et ben c'est Narpi qui a gagné, mais il a chargé sur internet.
C'est toujours pareil les quiz,
mais non. Mais ça comptait pas là.
Ben voilà, ça comptait pas, c'était un truc blanc. Ben pour éviter ce genre de
déconvenu,
en fait on va faire un match, mais sans, ça va être un par un, quoi. C'est un mec qui va jouer contre un mec, mais il va répondre direct sans être en concurrence avec l'autre mec. Enfin bon, vous avez compris. Par exemple. La première demi-finale, parce que vous arrivez directement en demi-finale parce que vous êtes que 4.
Parce qu'on est trop fort.
La Ligue, en fait.
Voilà, c'est ça, la Coupe de la Ligue, voilà. C'est comme ça. La nouvelle formule de la Coupe de la Ligue, ça devrait être, il devrait être directement passé aux demi-finales.
En finale.
Un tirage au sort, ouais, Valenciennes, Le Havre, et Nantes, Auxerre, et voilà. Et comme ça, tu vas directement, la compétition, elle dure moins longtemps. Donc le premier match opposera Enzo à Fap. Ah. Et le second, bah, avec ceux qui restent, donc Mathieu et Hugo. Donc Enzo, est-ce que t'es prêt?
Vas-y, je suis prêt.
T'es prêt? Alors, tu vas me dire combien pèse... Attendez, parce que moi aussi, il faut que je cherche. Combien pèse Benoît Pedretti?
79.
79, c'est noté. Et c'est le premier arrivé à 3, en fait, hein, qui gagne. Comme ça, c'est pas trop long. 79, c'est noté. Donc, voilà, je dis pas de combien tu t'es trompé pour pas influencer l'autre mec. Donc, Maxime, t'es prêt?
Pas de problème.
Moi, je sais, même ça te fait un peu chier de participer. Je sais. Alors, combien pèse Grégory Coupé?
83.
Ah ouais, 83, bah désolé, ouais, c'est toujours comme ça, c'est un peu dur, quoi, parce qu'il y a tout le temps des injustices, quoi. Pedretti, c'est plus dur d'évaluer son poids, donc Enzo, tu t'es trompé de 10 kilos quand même, et Maxime s'est trompé de 3 kilos.
Et pourquoi on ne fait pas sur le même joueur, les deux 10 ouais, sur le même joueur, c'est mieux, non?
Ouais, mais il faudrait que...
Genre, tu dis à 5 kilos d'écart, ou je sais pas, tu vois.
Ouais, d'accord, ouais, ça serait mieux, mais il faudrait pas que le... En fait, mais faut bien que les joueurs y répondent bien en même temps, quoi, aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas qu'il y ait de la triche.
Ouais.
On en même temps, on va se... Oui.
Bah, alors, bon...
Ouais, tu t'accotas, quoi.
Ouais, on va changer les règles, là, t'as raison. On va faire, voilà. Bah, donc, c'est Enzo et Maxime. Ils vont me dire combien pèse Rod Fanny.
90.
74.
Attends, Enzo, t'as dit combien?
90? Un peu loin, ouais, 80. Du muscle,
ouais. Ouais, et bon, et quand même. Et bon, bah écoute, tu es trempé de 12 kilos. Et Maxime, quant à lui, était à 4 kilos. Donc, ce monsieur pèse 78 kilos. J'aurais dit plus, moi, mais bon, c'est pas grave. Il est plus longiligne que je le pensais. Donc, Maxime compte un point. Donc, un point. De toute façon, entre une confrontation avec Marseille et Paris, c'est souvent Marseille qui gagne. Hein.
Donc, on a beau changer les règles, je suis toujours devant.
Ouais.
Attention, toi.
On est chez nous, comme ils disent quand ils sont au Parc des Princes ou au Stade de France. Alors, avec l'accent.
On le dit aussi.
Ouais, mais ça s'entend moins, quoi. Oh. Alors, donc, vous allez me dire combien pèse, parce que... Donc voilà, c'est le premier arrivé à 3, faut que je me dépêche, là, pour pas passer la nuit non plus. Combien pèse Maxi Rodriguez? C'est dur, hein.